écrit des premiers Quakes, illustrant l'histoire des premiers Quakes préface, des éditeurs du site. Il s'agit d'une série de lettres de premiers Quakes s'écrivant les uns aux autres. Elles sont proposées à deux fins. 1. Montrer comment la société fut acquise par des milliers de personnes à Londres entre 1654 et 1700. 2. Montrer l'amour inégalé que les premiers Quakes avaient les uns pour les autres, partageant leurs triomphes, compatissant à leurs souffrances et admirant leur grande foi inébranlable. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34-35. Les 410 lettres de George Fox sur ce site sont considérablement plus spirituelles que les lettres ci-dessous, plus inspirantes et plus instructives, tandis que celles qui suivent comportent davantage de détails historiques. Aucune histoire des Quakers ne serait complète sans inclure plusieurs lettres de George Fox. J'en ai donc inséré un très petit nombre dans l'ordre chronologique, vous donnant l'occasion de juger par vous-même de sa mesure de Christ. Le texte est tiré de The Friend Library, vol. XI, 1847, page 323-449. La plupart de ces lettres proviennent de manuscrits originaux qui n'avaient jamais été publiés auparavant. L'éditeur, A.R. Barclay, a accompli un travail remarquable en localisant ces manuscrits obscurs, en transférant les manuscrits vers un support imprimé, puis en les complétant par d'autres récits publiés de la même époque et des mêmes événements, des récits issus d'autres écrits Quakers déjà publiés, ainsi que de sources indépendantes, notamment des livres, des registres du Parlement et des comptes rendus de presse trouvés dans des lieux tels que le British Museum. Comme pour tous les autres écrits des premiers Quakers sur ce site, j'ai actualisé la langue et la ponctuation selon les usages modernes. Il m'arrivera de réécrire des phrases pour les rendre plus faciles à lire, mais je n'ai en rien altéré l'exactitude historique. Là où j'ai ajouté du texte à l'original, il sera entouré d'accolades. Un mot de prudence. À l'époque 1840 de cette publication, la société quake britannique était depuis longtemps tombée dans l'apostasie sous l'influence de Joseph Gurney et de ses partisans, voir le texte sur l'éloignement quake de la vérité pour des détails sur l'apostasie gurneyite. Les éditeurs de la Friends Library, d'où cette section est tirée, incluent des biographies d'individus sur la base de leur vie pieuse, au lieu d'une preuve qu'ils étaient une nouvelle création, ayant été transportés dans le paradis du royaume de Dieu, demeurant en la présence de Dieu. Une vie pieuse est trop proche des critères de la désignation de saint, catholique romain. Il est clair, à la lecture des témoignages de certains de ces individus pieux, qu'ils luttaient encore avec leur chair, leurs doutes et leurs peurs. Heureusement, aucun des individus figurant dans les lettres suivantes ne semble être dépourvu d'une véritable régénération en une créature nouvelle. Mais les commentaires de l'éditeur et les références historiques dans cette section, sans être des erreurs flagrantes, reflètent sa préoccupation pour les détails historiques, plutôt que pour l'amour, la foi, le pardon et l'incroyable puissance de Dieu dans la prédication des premiers Quakers. À cette époque, la société minimisait aussi la contribution de George Fox, mettant plutôt l'accent sur les contributions des vaillants 60, bien que presque chacun des 60 ait été convaincu astérisque par Fox. Mais si vous le remarquez tout au long de ses écrits, Fox était particulièrement tenu avec un amour et une affection sans pareil par chaque auteur Quake. D'autres écrits sur ce site font écho à cette haute estime que les premiers Quakers avaient pour Fox. De plus, je soutiendrai que, bien qu'Edward Burroughs fût un géant parmi les Quakers, sur son lit de mort il dit « Si George Fox avait été avec moi ne serait-ce qu'une heure, je serais bien. » Et Francis Raugill, un autre géant parmi les Quakers, dans une lettre à Margaret Fell, dit ceci « Salue-nous très affectueusement George Fox, une heure avec lui serait pour nous une grande joie. » Cela renforce la preuve que la mesure de Christ de Fox dépassait celle de tous les autres Quakers. Il existe amplement de preuves que Fox possédait une mesure de Christ que nous ne pouvons même pas imaginer sans pouvoir le voir et l'entendre, et ainsi entendre le Saint-Esprit parler à travers lui. Lire, c'est bien, mais ce n'est pas du tout la même chose que d'entendre la parole de Dieu proclamée avec l'Esprit de Dieu. Une fois que les Quakers modernes commencèrent à déprécier Fox, ils poursuivirent en ignorant tous les conseils et avertissements des géants Quakers primitifs sur la voie du salut, par la repentance jusqu'à la pureté, sur la croix intérieure du renoncement à soi. Astérisque convaincu signifiait être devenu certain du chemin de la croix requis pour le salut, mais ne pas avoir reçu le salut lui-même. Tous ces premiers Quakers nouvellement convaincus avaient auparavant été de pieux lecteurs de la Bible, professaient que Jésus était le Fils de Dieu, avaient été baptisés, assistaient aux offices de leur secte, etc. Mais ils étaient tous encore captifs du péché, et ils savaient qu'il devait y avoir un moyen d'être libérés même du désir de péché. Lorsqu'ils entendirent proclamer le chemin pour devenir pur, pour être libérés du péché, leurs cœurs rendirent témoignage à cette vérité. Ils se joignirent donc à d'autres qui cherchaient à être libérés du péché, en attendant dans un silence humble d'entendre le Maître au-dedans de lui obéir, et de recevoir sa grâce transformatrice qui leur apprenait à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement, une vie pieuse dans leur monde d'alors, à être rachetés de toute iniquité et purifiés, et ensuite avoir. Ce processus de la conviction à la pureté exigeait qu'ils continuent, au fil du temps, à travailler à leur salut avec crainte et tremblement, parce qu'ils tremblaient en présence de l'Esprit de Dieu agissant sur leur cœur, leur montrant leurs péchés, les convainquant des secrets de leur cœur, ils tremblaient ou frémissaient, ainsi ils devinrent connus sous le nom de Quakers. Bien que Fox n'ait pas imposé son autorité, il avait une mesure de Christ qu'aucun autre des premiers Quakers n'avait. Sa vie est une démonstration immense de foi et de puissance. L'Église de Dieu n'est pas une démocratie. C'est difficile à accepter pour certains, mais Dieu est un Dieu d'ordre, et l'ordre requiert une tête sur la terre. Comme Fox l'a manifesté, il ne donnait pas d'ordre aux autres, mais était plutôt l'instrument par lequel le Seigneur guidait l'établissement d'une structure de gouvernement dans l'Église, avec des procédures et des politiques correspondantes. Fox révélait ensuite cette direction, que d'autres, mûrs, reconnaissaient immédiatement comme une politique sage et digne. Il n'y a qu'un seul roi, et c'est Christ pour tous, mais parmi ses sujets, tous n'ont pas la même autorité ni la même responsabilité. Isaac Pennington, un autre premier Quaker grand serviteur du Seigneur, a dit « Vous qui êtes faibles, bénissez Dieu pour l'effort. Vous qui avez besoin d'un pilier sur lequel vous appuyez, bénissez Dieu, qui a pourvu des piliers dans sa maison, et dans la crainte et sous la conduite de son esprit, faites usage de ces piliers, qui sont fidèles et ont de Dieu la capacité dans sa puissance et sa glorieuse présence avec eux d'aider à soutenir son édifice tout comme ils avaient du Seigneur, la capacité de rassembler à lui. Celui qui méprise celui qui est envoyé, méprise celui qui l'a envoyé, et celui qui rabaisse tout don, tout office ou toute œuvre que Dieu a accordé à une personne, méprise la sagesse et la disposition du donateur. Sont-ils tous pères? Ont-ils tous vaincu l'ennemi? Sont-ils tous parvenus à maturité dans la vie? Sont-ils tous des étoiles dans le firmament de la puissance de Dieu? Dieu a-t-il fait tous égaux? N'y a-t-il pas différents états, différents degrés, différentes croissances, différentes places, etc.? Alors, si Dieu a établi une différence et donné des degrés de vie, et des dons différents, selon son bon plaisir, quelle est cette sagesse et cet esprit qui ne le reconnaissent pas, mais voudraient rendre tous égaux, ô mes amis? Craignez devant le Seigneur, honorez le Seigneur dans ses manifestations, et dans les différences qu'il a mises parmi les enfants des hommes et parmi son peuple. Il a donné jadis des prophètes, et le reste du peuple n'était pas égal à eux. Il a donné des évangélistes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, etc. Et les autres membres des églises n'étaient pas égaux à eux. Il a donné maintenant des pères et des anciens, et les enfants et les jeunes hommes ne sont pas égaux à eux. Ainsi en est-il, en vérité, de la part du Seigneur, et ce qui est de Dieu en vous le reconnaîtra ainsi. Veillez donc, chacun, à sentir et à connaître sa propre place et son propre service dans le corps, et à être attentif aux dons, places et services des autres, afin que le Seigneur soit honoré en tout, et que chacun soit reconnu et honoré dans le Seigneur, et non autrement. William Caton, jeune ministre Quaker, se lamentait de sa petite stature en Christ, comparée à celle de certains anciens Quakers éminents qu'il avait observés, lorsque le Seigneur lui donna cette compréhension classique. Le Seigneur me montra comment ceux qui avaient beaucoup n'avaient rien de surplus, et ceux qui avaient peu ne manquaient de rien, exactement comme c'était le cas avec les Israélites d'autrefois. Car les frères qui étaient sages et éminents, qui avaient beaucoup reçu du Seigneur, notaient qu'il leur était exigé d'autant plus, de sorte que, de tout ce qu'ils avaient, ils n'avaient rien en trop, si ce n'est ce qu'ils devaient employer dans l'œuvre et le service de Dieu. Fox fut clairement l'instrument principal pour la fondation et la structure de la société Quake. Ses dernières années furent consacrées à maintenir la société unie, guérissant des divisions que des membres ambitieux et spirituellement immatures avaient créées. Après sa mort et celle d'autres premiers Quakers, la société se détériora rapidement quant à l'esprit et à la direction. Nombre des commentaires de l'éditeur et des ajouts séculiers ont été supprimés à cause de l'orientation des commentaires séculiers qui dénigrent les premiers Quakers, si subtilement que ce soit. Il m'arrivera de laisser l'un des commentaires non régénérés de l'éditeur, embarrant le texte, attirant l'attention sur son manque de foi quant au fait que l'Esprit de Dieu était avec les premiers Quakers, comme avec les apôtres. Puisque les Quakers de 1800 n'étaient pas dans le royaume de Dieu, il n'est pas surprenant que certains aient douté de la possibilité, car, après tout, comment quelqu'un d'autre pourrait-il obtenir ce qu'eux-mêmes n'avaient pas expérimenté, à moins d'admettre une insuffisance, puis d'être pressé par la conscience d'y remédier. J'admets volontiers, je n'ai pas la même mesure de Christ que Fox et beaucoup des premiers Quakers. Mon but dans la vie est de remédier à ma déficience, afin qu'un jour j'entende le Maître me dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. J'ajouterai que ma foi est certaine quant à ce que j'espère, comme en témoignent les changements que Christ opère en moi au cours du chemin. Les témoignages, ci-dessous de l'amour que les premiers Quakers avaient les uns pour les autres sont une source d'espérance et de motivation pour mes efforts, puissiez-vous être, vous aussi, encouragés et inspirés. Introduction par A.R. Barclay 1840 en présentant au lecteur ce volume de lettres et d'autres documents des premiers Quakers, dont la plus grande partie, croit-on, n'a jamais été imprimée, il peut être opportun que l'éditeur déclare qu'ils sont pour la plupart tirés d'originaux ou d'anciennes copies, contenues dans diverses collections, tant privées que celles en possession de la société à Londres et en province. La principale « collection de manuscrits dont ils ont été extraits » est celle que l'éditeur désigne sous le nom de collection de Swarthmore. Elle contenait autrefois un très grand nombre de lettres originales des premiers amis, pour la plupart adressées à Margaret Fell, avant son mariage avec George Fox en 1669, mais très peu après, ainsi que d'autres adressées à George Fox lui-même. Ces manuscrits furent probablement conservés ensemble à Swarthmore Hall, dans le Lancashire, pendant de nombreuses années, ou du moins jusqu'au décès de Margaret Fox en 1702. Mais, au cours du siècle dernier, la collection fut divisée et finalement, une grande partie en fut remise à la Société à Londres. Les lettres de cette collection portent le plus souvent une annotation de George Fox, comme n'importe quel autre ensemble de papiers pourrait l'être par commodité de consultation, indiquant le nom de l'auteur et la date, et parfois il y a ajouté un bref mémorandum concernant l'auteur ou le sujet principal de la lettre. Elle relate les tout premiers services évangéliques des amis en diverses parties de ce pays en terre étrangère, et il est probable que George Fox s'y référait dans le passage suivant de son testament, « Tous les événements, voyages et souffrances des amis, au commencement de la propagation de la vérité, que j'ai gardé ensemble, feront une belle histoire, et on peut les avoir à Swarthmore avec mes autres livres, car c'est une belle chose de connaître le commencement de la propagation de l'Évangile, après une si longue nuit d'apostasie. » Amen, Testam de George Fox, daté du 8e mois, 1688. Dans l'organisation de ce volume, l'éditeur a adopté les divisions suivantes, sous lesquelles il a été jugé que les lettres et documents pouvaient être convenablement classés, première partie historique ou lettres illustrant l'histoire, quant aux événements, services ou souffrances à Londres et en province, avec quelques-unes concernant l'Irlande. Deuxième partie, documents illustrant la discipline primitive et les témoignages de la société. Troisième partie, épîtres de conseil et d'exhortation aux églises, les lettres relevant de la première division de l'ouvrage, et plus spécialement celles concernant Londres, siège du gouvernement, se révéleront souvent d'un grand intérêt. Comme ces lettres ont le caractère d'une correspondance privée ou intime, il convient de tenir compte de l'introduction d'autres matières qui peuvent être jugées d'une importance triviale. Pourtant, pour certains lecteurs, cette correspondance familière a un attrait, en raison des aperçus vifs qu'un auteur, sur le lieu ou au moment, donne parfois des circonstances et des caractères, non toujours remarqués par l'historien général. En même temps, les remarques et particularités de style d'auteur d'une époque lointaine demanderont parfois une attention soignée pour être pleinement appréciées, car elles peuvent renvoyer à des événements ou circonstances tenues pour bien connues en leur temps, bien qu'il ne nous soit pas d'emblée évident. De même, on peut rencontrer des expressions propres à l'époque, qui peuvent paraître quelque peu étranges à notre oreille moderne, 1840. L'éditeur a cherché à éclaircir ces lettres historiques par des notes tirées d'autres sources publiques, ainsi que par des citations occasionnelles d'autres auteurs Quakers. Ces sources d'informations, à savoir les histoires publiques, mémoires ou chroniques de l'époque, s'avèrent très peu fournies en notices concernant les premiers Quakers. En tant que corps, ils semblent généralement avoir été peu compris, voire même peu considérés par les auteurs de ces ouvrages, lesquels, plus souvent qu'autrement peut-être, introduisent des assertions erronées ou des remarques fondées sur le préjugé ou le manque de connaissances. Les documents introduits dans la deuxième division du volume, concernant la discipline primitive de la société, sont à la fois curieux et précieux. Curieux astérisque en ce qu'ils sont presque tous datés d'avant les registres existants des réunions établies de la société à Londres, et précieux en ce qu'ils exposent le soin et le souci des premiers amis, correspondance tenue sous la direction et l'aide du grand chef de l'Église, lors de la première institution de notre discipline, dont les principes et les objectifs demeurent. Astérisque l'Église du Christ n'est pas une démocratie. Il est évident, non curieux, que les principales lignes directrices de l'Église du Christ ont été fixées par les anciens d'alors, sous la supervision de Fox, tout comme le Concile des apôtres, présidé par Pierre, a émis des directives pour l'Église primitive à Jérusalem, et le Saint-Esprit dirigeait à la fois Pierre et Fox. Les Quakers dégénérèrent rapidement en une démocratie, les immatures, souvent les plus bruyants, participant aux décisions clés. Astérisque astérisque, un changement fondamental était survenu, à cette époque, dans la réunion de discipline, permettre à des membres spirituellement immatures, mais dévoués d'y siéger. Les premiers Quakers ne permettaient qu'à ceux qui avaient progressé spirituellement, afin d'être guidé par la lumière, de prendre des décisions de discipline. Toute personne prenant la parole dans les réunions de discipline devait être approuvée par les membres les plus anciens de sa réunion. À cette époque, 1840, les réunions de discipline avaient aussi abandonné la pratique d'attendre d'abord silencieusement le Seigneur, afin de permettre au Saint-Esprit de conduire le déroulement. Cela résultait de leur abandon des principes de la foi des premiers Quakers, en substituant les doctrines de Gurney, identiques à celles de l'Église d'Angleterre. Ils avaient abandonné les nécessités suivantes, le baptême de mort, la crucifixion de l'esprit égoïste sur la croix intérieure du renoncement à soi, l'obtention du même esprit qui guidait les apôtres, la régénération, la sanctification, l'union avec Christ et Dieu, et l'entrée dans le royaume. Leur définition de la croix consistait à porter des vêtements du XVIII siècle, tout en disant « thee et thou » et à attendre silencieusement dans des réunions une fois par semaine. Cela les faisait paraître identiques, mais ils ne cherchaient pas de tout leur cœur, ni même ne savaient quoi chercher, ils n'avaient pas l'esprit pour les guider, comme les premiers Quakers l'avaient. Ainsi, les Quakers de 1800 avaient la même forme que les premiers Quakers. Une forme est une coquille, l'intérieur était creux, une apparence de piété sans la puissance de tel « détournez-vous ». En raison de la grande rareté de nos archives londoniennes, avant l'année 1666, il y a peu de doute qu'elles aient toutes été détruites par le grand incendie de Londres, car la grande maison de réunion du Bull and Mouse fut brûlée à cette époque. Alexandre Pock, dans une lettre à George Fox datée de Londres du 27 du 9e mois, 1667 insérée dans ce volume déclare « Chez Robert Dring, je me suis renseigné sur les lettres et papiers des amis qui avaient été écrits au commencement de la propagation de la vérité, mais je n'en ai trouvé aucun car ils furent brûlés dans le grand incendie de Londres, comme Darcy l'a dit. Les épîtres de conseil de la troisième partie ne sont peut-être pas aussi nombreuses qu'on pourrait le souhaiter, car telle était l'assiduité et le zèle de nos ancêtres, qu'ils n'étaient pas disposés à laisser en sommeil ce qui leur paraissait utile à la cause de la vérité. Ainsi, une très grande partie des écrits de ce genre furent alors publiés au dehors, pour l'encouragement et la consolation des églises et des individus. Ici, par conséquent, les limites de la recherche furent plutôt restreintes. Pourtant, on espère que certaines de ces épîtres choisies sont, croit-on, imprimées pour la première fois et seront véritablement accueillies par de nombreux lecteurs de notre temps. Les lettres et épîtres d'Alexandre Pock ont été davantage publiées, parce que peu des écrits de cet ami éminent nous sont parvenus imprimés. L'extraordinaire patience de nos premiers amis se manifesta sous les cruelles souffrances auxquelles ils furent soumis, leur fidélité exemplaire à la cause de la vérité et de la justice, et l'ardeur qu'ils montrèrent par leurs avertissements répétés aux gouvernants de ce pays, afin que la colère du ciel puisse être détournée de la nation, en cessant de tels actes pervers de persécution et de cruauté. Toutes les puissances de la nation semblaient liguées, pour écraser ce peuple, le gouvernement lui-même voué à cette fin, mais il ne leur fut pas permis de l'emporter sur eux. Combien justement alors pouvaient-ils, avec révérence et reconnaissance, reprendre le langage d'Israël autrefois, si l'Éternel n'avait pas été pour nous, quand les hommes se sont levés contre nous, alors ils nous auraient engloutis vivants, quand leur colère s'enflammait contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, le torrent serait passé sur notre âme. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Puisse être le souci ardent de nous, successeurs trop dégénérés, faut-il ne pas le dire, de ces fils du matin, ces patients souffrant pour la cause de Christ, de marcher nous aussi comme de bons soldats et de fidèles disciples du chef de notre salut. Alors pourrions-nous ne pas humblement espérer que le Seigneur, dans son abondante miséricorde, se montrerait être aussi de notre côté, serait notre force, notre secours, notre refuge et notre gloire, comme il fut les leurs, et rien de bon ne nous manquerait, et rien ne pourrait nous arracher de sa main puissante qui préserve, ni nous séparer de son amour en Christ Jésus notre Seigneur. Ici l'éditeur admet que les Quakers de son temps s'étaient trop dégénérés, souhaitant pouvoir eux aussi marcher comme de bons soldats, tout en ignorant la formule, la croix intérieure du renoncement à soi, jusqu'à la mort de la nature pécheresse, aboutissant à la pureté pour devenir un soldat. Toutes les disputes évangéliques, la circulation d'écrits critiques et les confrontations avec d'autres sectes avaient été abandonnées par les Quakers vers 1750. S'ils avaient été conduits par le Saint-Esprit, l'évangélisation ne serait pas morte. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'une autre secte les persécute. Les autres sectes étaient satisfaites jusqu'à ce que quelqu'un réduise sérieusement leurs revenus, alors elles étaient prêtes à infliger des amendes, emprisonner, bannir et tuer les responsables. A.R. Barclay Lettonton, près de Londres, 11e mois, 1840. Explication du texte. les mots du texte imprimés en italique, sauf dans le cas des titres d'ouvrages et d'expressions remarquables, indiquent qu'il s'agit probablement de tournures alors d'usage courant ou propres à l'époque. De grands crochets, ainsi, sont utilisés pour signaler des remarques introductives ou des citations de l'éditeur. Des crochets réapparaissent aussi dans une lettre ou un document indiquant l'ajout de mots à des fins d'explication du texte. Un long tiret implique une omission, un court, tel qu'on l'emploie aujourd'hui, une pause dans la ponctuation ou un lien entre des parties de longues phrases, etc. Lorsqu'on emploie la formule à la fin d'une lettre, from the original, elle sert à désigner que la lettre manuscrite était telle, sur l'évidence présumée habituelle de la comparaison ou de l'examen répété d'autres lettres du même auteur, ainsi que d'autres marques évidentes d'originalité, comme les cachets postaux, les sceaux, etc. Le texte entre accolades a été ajouté par l'éditeur du site. Lettres et écrits des premiers Quakers, première partie historique, concernant des événements, des services à Londres. Les deux lettres ci-dessous sont antérieures aux lettres de cette collection. Elles ont été prises parmi les 410 lettres de George Fox sur ce site et sont insérées en préface par l'éditeur du site. George Fox à tous le quatrième jour du premier mois 1650, je sentis la puissance de la parole se répandre sur le monde entier dans la louange. Louange, honneur et gloire au Seigneur du ciel et de la terre, Seigneur de paix, Seigneur de joie, ton visage réjouit mon cœur. Seigneur de gloire, Seigneur de miséricorde, Seigneur de force, Seigneur de vie, et de puissance sur la mort, Seigneur des seigneurs, et roi des rois. Dans le monde il y a beaucoup de seigneurs, mais pour nous il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui sont toutes choses, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, à lui soit toute gloire, lui qui en est digne. Dans le monde, il y a beaucoup de seigneurs et beaucoup de dieux, et la terre fait des seigneurs, convoitant les richesses et opprimant les créatures, et ainsi l'esprit cupide, se repliant sur lui-même, se fait seigneur au-dessus des autres. Cette nature d'orgueil seigneurial est la tête, jusqu'à ce qu'elle soit soumise par la puissance de Dieu, car chacun, dans cet état, s'efforce d'être au-dessus d'un autre, peut s'efforce d'être le plus bas. Oh, que chacun s'efforce d'abattre en lui-même la domination et l'honneur, afin que le Seigneur du ciel et de la terre soit exalté. George Fox de George Fox à tous les frères, lettre N20 de chez le juge Fell, Swarthmore dans le Lancashire, le 3 du 11 mois, 1652 à tous mes chers frères, que le Dieu de puissance a éclairé de sa lumière éternelle, et à qui il a fait connaître sa voie de vérité, et qu'il a fait sortir des voies obscures dans lesquelles vous avez marché, voies obscures où marche tout le monde. Mais là où la pure lumière de Dieu est attestée, elle guide à lui. La lumière n'est qu'une, qui conduit hors des ténèbres et du monde des ténèbres, vers le monde qui est sans fin. Ainsi vous tous, amis et frères dans la vérité éternelle de Dieu, marchez-y jusqu'à Dieu, et ne soyez pas seulement des diseurs, ni des apostats, car l'apostat est un diseur et non un faiseur, et de cette nature surgissent ambition, orgueil et présomption. Mais demeurez dans la pure lumière que Dieu vous a rendue manifeste dans votre entendement, tournez votre esprit vers lui, et marchez comme des enfants de la lumière et du jour, et ne vous enivrez de rien, ni ne tombez dans aucun excès, mais soyez modérés et patients. Attendez la présence du grand Dieu, et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ne soyez pas si enfantin que d'être ballotté par les paroles des hommes sans vie. Et ne courez pas après les libertés des autres, qu'ils ont prises dans leur fausse notion présomption d'être sauvés, libres de péché par la licence de la grâce, car vous qui faites ainsi ne demeurez pas dans la vérité, et ainsi vous pouvez en venir à être ébranlés, et à ébranler les autres qui regardent aux paroles. Mais attendez, chacun en particulier, dans la mesure que Dieu vous a donné, Dieu dans la crainte de Dieu, alors vos cœurs seront gardés purs, et c'est là la voie sûre. Et attendez tout ce que le Fils soit rendu manifeste vu en vous, et que le Fils seul vous affranchisse en vous-même, chacun en particulier, et tout ce que le Fils a rendu libre ne font qu'un. Mais la première nature, qui voudrait la liberté, doit aller en captivité, liberté que ceux qui vivent dans leur raisonnement charnel cherchent pour elle. Mais ici l'homme est trompé dans sa première naissance. Mais vous tous, en qui la semence immortelle est amenée à la lumière, qui êtes relevés pour siéger dans les lieux célestes avec Christ Jésus, et qui êtes devenus enfants du jour, marchez comme des enfants du jour et comme des enfants de la lumière, et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous tous qui aimez la lumière, vous aimez la seule chose qui rassemble vos cœurs à la source de lumière et de vie, et en y marchant, vous avez l'unité les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. La connaissance de la lettre la Bible, que vous aviez autrefois fait entrer dans vos notions et vos compréhensions, l'esprit obscur lui donnait des sens obscurs, et vous maintenait ainsi dans la voie large. Mais maintenant attendez tout ce que le même esprit soit manifesté dans vos entendements, qui étaient en ceux qui ont donné les Écritures, eux qui étaient sortis de la voie large, saints hommes de Dieu qui avaient échappé aux souillures du monde. Et si, en chacun de vos cas particuliers, vous ne connaissez pas au-dedans un principe qui est de Dieu, pour vous guider à attendre Dieu, vous êtes encore dans votre propre connaissance, qui est brutale et sensuelle. Mais en attendant tous Dieu dans ce qui est de Dieu, vous demeurez ouverts à recevoir les enseignements de Dieu. Et la pure sagesse et la connaissance viennent d'en haut, connaître Dieu et Jésus-Christ le chemin qui est caché au monde, et marcher hors de vos propres voies et de vos propres pensées. Et en demeurant dans ce qui est pur jusqu'à Dieu, cela commande à votre propre raison de se taire et de chasser vos propres pensées, et en demeurant dans ce qui est pur, cela découvre tout cela. Ainsi, en demeurant dans l'Esprit, il garde tous vos cœurs pour Dieu. À lui soit toute louange, tout honneur et toute gloire à jamais. George Fox de chez le juge Fell, dans le Lancashire, le 3 du 11 mois, 1652. Lire qu'une personne fait référence à la lumière dans toute la chrétienté est chose rare. Pourtant Christ, qui est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, nous a dit de croire en la lumière afin de devenir enfant de la lumière. Pour une discussion complète de la lumière et de sa preuve du salut, voyez l'exposé détaillé de Fox, disponible sur ce site pour votre lecture et votre compréhension. Comme le Seigneur dit à Paul, « Je t'envoie pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage du péché, et un héritage parmi ceux qui sont purifiés par la foi en moi. » Actes 26, 17-19. Annie les amis avaient surgi, à partir du ministère de George Fox en 1646. Bien que les amis fussent connus, comme une profession religieuse distincte dans certaines régions du nord de l'Angleterre avant l'année 1654, il ressort de nos historiens qu'il n'était qu'une présence mineure dans la métropole avant cette année-là. William Crouch, qui résidait à Londres à cette période, nous informe dans ses mémoires que, vers le commencement de l'année 1654, certains mouvements de la puissance de la vérité commencèrent à se faire sentir chez quelques personnes sensibles dans et autour de la cité de Londres, et quelques-uns furent convaincus et se tournèrent vers le Seigneur. La lettre suivante, datée du 29 du 11e mois 1653, est la plus ancienne que l'éditeur ait rencontrée, datée de Londres. L'auteur, Gervase Benson, comme il ressort du journal de George Fox, fut autrefois colonel dans l'armée, il était aussi juge de paix, mais en 1652, il fut convaincu à Lancaster, à l'occasion de la présence de George Fox aux Assises, lorsqu'il se disculpa des fausses accusations portées contre lui. Gervase Benson, avec Anthony Pearson, qui était aussi juge de paix, s'intéressa au sort de George Fox lorsqu'il souffrait l'emprisonnement dans l'infâme prison de Carlisle, en 1653. Gervase Benson est aussi mentionné dans le journal de George Fox comme un visiteur chez le juge Fell à Swarthmore. Il mourut en 1679, comme il ressort du registre des sépultures des amis de Westmoreland, où il est décrit comme étant de Candale. Gervase Benson et Anthony Pearson étaient des juges de paix, siégeant comme magistrats aux assises d'Appleby, en janvier 1652, lorsque James Nelly, George Fox et Francis Haugill furent interrogés sur leur acte d'accusation, sur une accusation de blasphème. À cette occasion, le juge Pearson ordonna qu'on leur ôte leur chapeau, puis procéda à l'interrogatoire de James Nelly. Il est dit que le juge Pearson fut convaincu lors de ses assises par James Nelly, alors qu'il siégeait au tribunal comme l'un de ses juges. Il est bien connu qu'Anthony Pearson devint l'auteur de cet ouvrage approuvé, The Great Chasm of Tides. Œuvre de James Nelly, p. 1116. Gervase Benson à George Fox et James Nelly, Londres, 29 jours du 9 au 11 mois, 1653. À ce que j'aime tendrement dans le Seigneur. Mon amour dans le Seigneur vous salue, ainsi que tous les amis qui sont avec vous. Par l'amour de Dieu, j'ai été amené dans cette grande ville, et par sa puissance, j'y suis gardé pour l'attendre et faire tout ce à quoi il m'appellera, afin que lui seul soit glorifié en moi et par moi. Priez le Seigneur pour moi, afin que je sois gardé dans toute fidélité, avec hardiesse pour rendre témoignage à la vérité, contre toutes les tromperies, telles qu'elles sont rendues manifestes en moi, à la louange de sa grâce gratuite et de son amour pour moi, que je trouve chaque jour se déverser dans mon âme pour la rafraîchir. Chers amis, je ne trouve ici rien avec quoi je puisse avoir communion. Seulement, le Seigneur suscite une lumière en beaucoup, tant parmi les prêtres que parmi le peuple, qui met à découvert les actions charnelles des magistrats et des soi-disant ministres, et ils sont poussés à déclarer publiquement contre eux. J'étais récemment à une réunion avec certains d'entre eux, où se trouvaient des membres du Parlement, des ministres et d'autres, mais j'ai été amené à dénoncer leurs pratiques dans de telles réunions et à leur montrer que leurs réunions n'étaient pas pour le mieux, mais pour le pire. Ils passaient leur temps à se poser des questions les uns aux autres et à débattre doctrinalement de choses dont ils ne pouvaient rendre témoignage. Après nous être séparés, je n'ai eu aucune liberté d'aller à de telles réunions, mais j'ai été amené à écrire quelques propositions à certains membres du Parlement qui, par la bonté du Seigneur, ont été achevées ce matin. J'ai joint une copie de leurs en-têtes, n'ayant pas le temps, pour l'instant, de recopier le tout. Quant à l'élargissement de l'ami à Candale, George Taylor, je l'espère, vous en a donné ou vous en donnera un récit. Ne voyant pour l'instant rien au contraire, sinon que je vous verrai bientôt en province, je conclus, Gervas Benson P.S. Il y en a beaucoup ici qui s'informent des amis du Nord et de la vérité rendue manifeste en vous, et il y a beaucoup d'écrits pour et contre les prêtres. Écrit de Londres, le 29 du 9 au mois 1653, le calendrier julien était en usage à cette époque, l'année commençait en mars et se terminait en février. Ainsi, le 9e mois du calendrier julien Nov équivaut au 11 mois de notre calendrier géorgien actuellement utilisé. Les dates du calendrier julien sont généralement imprimées dans l'ensemble des premiers écrits Quakers. À mon cher ami Thomas Whelan, de Candale, Westmoreland, Londres, le 27 du 4e mois 6e mot 1654, cher ami, j'ai reçu ta lettre. Les attentes de nos amis ici qui sont fidèles ont été et sont très grandes de voir venir quelques amis du Nord pour vivre ici. Ils cherchent chaque jour l'un ou l'autre, quoique nous bénissions le Seigneur de ne pas tant compter sur aucune créature, mais là où il n'y a que puérilité, il ne peut y avoir que balbutiement. Le Seigneur continue encore avec nous deux de ses servantes, qui sont parfois poussées à parler, et visant au bien de leurs âmes, elles sont souvent maltraitées par le peuple, mais elles sont soutenues par le Seigneur, ce qui les rend courageuses parmi les loups voraces. D'autres, dont le cœur n'est pas si pierreux, embrassent la vérité dans son amour, de sorte que notre nombre augmente. La moisson est grande, les ouvriers peu nombreux. Si c'est la volonté du Seigneur d'envoyer des ouvriers, nous savons qu'ils viendront, et nul ne peut l'empêcher. Notre condition actuelle et nos tentations sont extrêmement étranges et grandes, ce qui requiert une surveillance plus stricte, et que tu pries continuellement le Seigneur pour nous. Parfois le Seigneur nous pousse à parler à ceux qui sont au-dessus de nous selon la chair, et bien que nous ayons été comme des feuilles de tremble, frémissant au vent devant eux, pourtant, louange au Seigneur, il nous donne des cœurs aussi hardis qu'un lion. Comme il a plu au Seigneur de nous arracher aux trompeuses illusions des prêtres, ainsi aussi à ces formes païennes, qui étaient et sont encore pratiquées dans les familles où nous vivons. Et bien que, au chagrin de nos âmes, nous ne puissions pas encore vivre d'une manière telle que le Seigneur l'exige, nous nous efforçons néanmoins et luttons pour prendre le dessus sur la tromperie qui a si longtemps régné en nous. Le 17 jour de ce mois, mon maître selon la chair voulut savoir de moi la raison pour laquelle je n'assistais pas à ses saints devoirs, comme il les appelle. Je lui dis que je l'avais entendu dans ses prières, bénir le Seigneur pour sa vocation, son élection, sa rédemption et sa sanctification, mais qu'il ne vivait pas à la hauteur d'une vie digne de ce que Christ a racheté, que la vérité telle qu'elle est en Jésus n'était pas en lui, et que les prières des méchants sont une abomination devant le Seigneur, et que celui qui nourrit l'iniquité dans son cœur, le Seigneur n'entendra pas ses prières. Quand je lui eus dit ces paroles, son visage pâlit, et aussitôt il éclata de colère, me lançant ces mots, « Misérable, tu me fais trembler, misérable scélérat fripon !» Et se jetant sur moi les poings serrés, il me frappa au visage et aux yeux, très souvent aussi fort qu'il pouvait. Je ne bougeai ni main ni pied, me rappelant aussitôt le commandement, « Si l'on te frappe sur une joue, présente l'autre, ce que je fus amené à faire. » Quand il eut fini, je lui demandai si ce qu'il avait fait venait de Dieu, il répondit non. Peu après, il m'ordonna d'écrire de ma main ce que j'avais dit, ce que je fis, étant à peine capable de voir ce que j'écrivais à cause des coups qu'il m'avait portés. Mais je fus amené à écrire ce qui, pour lui, paraissait aggraver ce que j'avais dit. Dès que j'eus ainsi fait, un prêtre entra, que mon maître prit aussitôt pour entendre cette affaire et lire mon écrit. Dès qu'il l'eut lu, il dit « Cette affirmation est très douteuse, et je pourrais en tirer plusieurs questions », et ainsi il commença « Soutiens-tu la perfection ?»« Oui, la nies-tu ? » Le prêtre « Oui ». « Alors, dis-je, tu n'es pas ministre de Dieu. Il serait trop long et trop ample de te rapporter tout l'entretien entre lui et moi, car la promesse du Seigneur s'accomplit pour moi à cet instant même, ce n'était pas moi qui parlais, mais l'Esprit de Dieu, qui était mon maître et ma mémoire. Et je lui déclarai en face bien des choses, qu'il n'était pas ministre de Dieu, qu'il se conformait au monde dans ses modes et ses coutumes, et aussi qu'il était un mercenaire, et bien plus encore que je n'ai pas le temps de déclarer maintenant. Le 19 jour, mon maître vint me flatter, et pleurer avec des larmes coulant comme d'une citerne crevassée. Le 23 jour, il m'envoya chez quelqu'un à qui il avait demandé de conférer avec moi. Je passai la plus grande partie de ce jour avec lui, et mon maître lui dit que s'il ne pouvait pas me détourner de mes illusions et erreurs, il me ferait comparaître devant le chambellan de Londres. Là, mes contrats d'apprentissage seraient brûlés ou déchirés, et moi, pour le scandale jeté sur lui par mon écrit, je serais envoyé à la maison de correction, et je perdrai la franchise de la cité de Londres, perdre mon nom et mon crédit, pauvres choses vides, basses, mendigotes, qui ne valent pas une pensée. Si je devais perdre 10 000 franchises, je les perdrais volontiers pour cette cause, et pour rendre témoignage à la vérité, bienvenue la maison de correction, ou tout autre châtiment, et pour Christ, adieu nom, crédit et réputation, mon maître charnel a dressé contre moi un acte d'accusation en 5 points, premier, que je l'avais calomnieusement accusé de vive voix, comme indiqué ci-dessus. 2. Que je fréquentais une réunion à Moorfields, où il n'y a que 2 femmes qui prêchent. 3. Que je ne veux pas me joindre à lui dans les devoirs de famille, à savoir, parfois la prière 2 fois par jour, et chaque jour du Seigneur 2 prières, un chapitre ou un psaume, et le plus souvent un chanté, et semblable chant et prière le soir. 4. Que, quand des clients viennent pour des marchandises, mon fait de ne pas leur parler, de ne pas leur dire ce qu'ils me demandent, ou de ne pas leur souhaiter la bienvenue, etc., a fait fuir ces clients. 5. M'ayant demandé si je voulais référer la controverse, afin qu'elle soit tranchée par les ministres de Dieu, je lui ai dit que je le voulais, mais je pensais ne pouvoir en trouver aucun. Voilà les 5 choses avec lesquelles il, pauvre âme, pense m'effrayer. Le dernier premier jour, Isabelle Buttery, qui est depuis longtemps avec nous, je ne sais si elle t'est connue, mais elle est bien connue de James Nelly et de Gervas Benson et d'autres amis qui étaient récemment à Londres, fut poussée à aller à Westminster vers certains à qui son cœur était porté, n'ayant l'intention de ne pas s'y attarder si le Seigneur le voulait, mais de venir à notre réunion à la maison de Simon Dring, dans Watling Street. Au commencement, Simon Dring tenait des réunions chez lui, mais comme elle revenait par Paul's, le maire fit que le soi-disant maréchal l'amena devant lui, et son esprit se montra vaillant. Ils allèrent ensemble dans la sacristie. Là, comme on nous l'a rapporté, elle tint une discussion avec lui, les échevins et le record, comme on les appelle. Ils l'envoyèrent donc à la maison de correction appelée Bridewell, ainsi qu'une autre jeune fille qui l'accompagnait, qui était la servante de Robert Dring de Moorfields. Je suis allée les voir avec d'autres de nos amis hier soir, mais il n'y eut pas d'accès, l'esprit pharisaïque de leur geôlier ne permettait pas de visite le jour de leur sabbat. Elles ont été incarcérées pour avoir laissé des gens obtenir leurs livres, que nos amis ont été poussés à publier. Isabelle m'a dit d'informer nos amis qu'il y a des livres à envoyer, The Way to the Kingdom, avec un ajout, est paru, envoyé par la prochaine poste où ils doivent être envoyés, et par qui et à qui. À présent, cher ami, je t'ai, aussi brièvement que j'ai pu informer, toi et le reste de mes amis, ainsi que nos chers amis Francis Raugill et John Cam, désirant que vos supplications soient présentées au Seigneur, afin que nous puissions être gardés fidèles jusqu'à la fin, car une couronne de vie est réservée. Salut de notre part tous nos chers frères, adieu, le Dieu éternel de puissance Alexandre de la main John Bridge 27 du 4e mois, selon le calcul du monde, 1654 William Crouch déclare qu'au début de 1654, quelques personnes au cœur tendre, dans la région de Londres, avaient été convaincues. Parmi elles se trouvaient Isabelle Buttery et une autre compagne, qui firent connaissance avec Amos Stoddard et Simon Dring de Moorfield. Stoddard était capitaine dans l'armée, fut convaincu et quitta son commandement. Ces femmes distribuèrent des imprimés du texte de Fox sur « The Way to the Kingdom ». Cette seule lettre suffit à convaincre plusieurs des premiers disciples. Elles tenaient des réunions privées et silencieuses, attendant le Seigneur, à la maison de Robert Dring à Moorfields, où, de temps à autre, quelques mots étaient prononcés. Mais il n'y avait encore personne, appelé ou équipé par le Seigneur, pour prêcher à quiconque à Londres. Henry, l'auteur de la lettre suivante, est ainsi mentionné par George Fox dans son journal, au début de 1653, vers ce temps, Anthony Pearson fut convaincu, lui qui avait été un opposant des amis. Il vint à Swarthmore, j'étais alors chez le colonel West, ils me firent donc chercher. Le colonel West dit, « Va George, car cela pourrait être d'un grand service pour cet homme. » Je partis et la puissance du Seigneur l'atteignit. Il était juge de paix dans 3 comtés. La lettre suivante, très intéressante, d'Anthony Pearson, a été trouvée dans la collection de Swarthmore. Elle est intitulée « A Paper of Anthony Pearson » et est datée de Ramshaw près de West Auckland, le 9 mai 1653. Il ne paraît pas à qui elle était adressée, cher ami. J'ai longtemps professé servir et adorer le vrai Dieu, et comme je le pensais plus que bien des sectes à être parvenu à un degré élevé en religion, mais maintenant, hélas, je découvre que mon œuvre ne résistera pas au feu. Mes notions n'étaient que vanités enflées, sans puissance ni vie. Ce que c'était que d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui maudissent, de rendre le bien pour le mal, d'user du monde comme n'en usant pas, de donner sa vie pour les frères, je ne l'ai jamais compris. Ce que signifiait pureté et perfection, je ne l'ai jamais goûté. Toute ma religion n'était que l'ouïe de l'oreille, le fait de croire et de parler d'un Dieu et d'un Christ au ciel ou dans un lieu éloigné, je ne sais où. Oh, comme le Seigneur a été gracieux envers moi en me conduisant chez le juge Fell, pour voir les merveilles de sa puissance et de sa sagesse, une famille marchant dans la crainte du Seigneur, conversant chaque jour avec lui, crucifié au monde et ne vivant que pour Dieu. J'en fus si confondu que tout mon savoir et ma sagesse devinrent folie, ma bouche fut fermée, ma conscience convaincue, les secrets de mon cœur furent manifestés, et ce Seigneur que j'adorais dans l'ignorance se révéla proche. J'aurais pu parler de Christ dans les saints, l'espérance de la gloire, mais c'était une énigme pour moi. Et véritablement, cher ami, je dois te dire que j'ai maintenant perdu toute ma religion, et je suis dans une telle détresse qu'il ne me reste ni espérance ni fondement. Ma justification et mon assurance m'ont abandonné, et je suis comme un pauvre vaisseau brisé, ballotté çà et là, sans pilote ni gouvernail, aussi aveugle, mort et impuissant que tu peux l'imaginer. Je n'ai jamais senti la corruption aussi forte, ni la tentation aussi dominante, que maintenant, j'ai un cœur orgueilleux, dur, pierreux, qui ne peut être sensible à ma misère. Quand je considère profondément combien de temps précieux j'ai gaspillé, et combien j'ai vécu sans profit, mon esprit éprouve une peur soudaine, mais ensuite je fuis encore vers mon ancien refuge, et là mes pensées se détournent. Ce que signifie attendre Dieu, je ne puis le saisir, et les confusions de mon propre esprit, jointes aux tentations continuelles du dehors, sont si grandes que je ne puis comprendre ni percevoir la petite voix douce et tranquille du Seigneur. Ce que tu m'as dit de George Fox, je l'ai trouvé vrai. Quand tu le verras, lui ou James Nelly, ils connaissent tous de mon état mieux que moi-même, incite-les si aucun des deux n'est attiré de ce côté, à m'aider de leurs conseils par lettre. Ils sont pleins de pitié et de compassion, et bien que j'aie été leur ennemi, ils sont mes amis, ainsi que Francis Raugel, de qui j'ai reçu une lettre pleine de tendresse et de conseils salutaires. Comme les visages de l'un d'eux me seraient bienvenus, vraiment, je pense que je pourrais mépriser le monde pour avoir communion avec eux. Mais je trouve mon cœur plein de tromperies, et je crains extrêmement d'être abusé, comme je l'ai été, et d'être séduit dans une forme sans puissance, dans une profession avant de posséder la vérité, ce qui multiplierait ma misère et me priverait à la fois de Dieu et du monde. Cher ami, il y a un transporteur qui vient de Candale à moins d'un mille de ma maison tous les 15 jours, et il passera chez Pete Huguin pour apporter toute lettre qui y serait laissée pour moi. Cela me rafraîchirait beaucoup de recevoir quelques lignes de toi, mais sois fidèle. Tu peux percevoir, par mon langage d'Ashdod, quel rustre je suis même de ce bas monde qui vit dans les ténèbres. J'ai peur que les ordres astérisques que nous avons pris à Appleby ne fassent souffrir certains qui parlent de la bouche du Seigneur. Astérisque, astérisque, je souhaite de tout cœur qu'ils soient supprimés ou rapportés. J'ai été chez le juge Fell, et j'ai été informé par la femme de cette âme précieuse, Margaret Fell, en quelque mesure de ce que signifient ces choses, que je comptais auparavant pour des débordements de cerveau étourdis. Astérisque ordre, en tant que magistrat concernant les peines de prison infligées aux Quakers pour la prison d'Appleby. Astérisque, astérisque, ainsi voici un ancien juge, ayant auparavant condamné des Quakers à la prison, déclarant que les premiers Quakers, non pas Fox seul, parlaient par la bouche du Seigneur. Cher cœur, aie pitié de moi et prie pour moi, et que toutes les obligations d'une ancienne amitié soient acquittées par des vœux de bien pour l'âme de l'ancien ami de la famille, afin qu'il puisse, avec eux, participer à vos possessions célestes. Avis, il parle de participer avec ce Quake à ses possessions célestes. C'est la preuve que la mesure du Christ chez le Quake était manifeste à quiconque avait l'esprit ouvert, et Pearson souhaitait participer avec lui à cette nature divine que le Quake lui avait montrée. Rappelle-toi, Pearson était un juge de session très conservateur et respecté, qui avait envoyé des Quakers en prison, et fut convaincu alors qu'il jugeait des ministres Quakers, James Nelly, George Fox et Francis Raugel, pour blasphème, comme indiqué plus haut. Anthony Pearson Ramshaw, près de West Auckland, 5 mai 9-1653, des ministres Quakers furent arrêtés pour une variété de motifs. Voyager le jour du Seigneur, ne pas assister aux offices de l'Église d'Angleterre, provoquer un trouble, être vagabond ou souvent sans motif. Ils étaient ensuite conduits devant un magistrat, où l'on exigeait de qu'ils prêtent serment sur la Bible, jurant de dire la vérité, ce que Jésus et Jacques avaient fermement commandé de ne pas faire, de sorte que leur refus de prêter serment entraînait automatiquement l'emprisonnement et ou des amendes, qu'ils refusaient généralement de payer par principe. Les tribunaux savaient que les Quakers ne pouvaient pas jurer, ils les arrêtaient donc sur quelques accusations fabriquées et les traduisaient en justice, ce qui entraînait automatiquement une peine de prison. Ainsi, les ministres Quakers passèrent beaucoup de temps en prison. Fox fut arrêté plus de 60 fois et passa 6 ans et demi en prison. William Dewsbury, un autre des premiers ministres Quakers, passa 20 ans en prison. Cette persécution massive eut lieu parce que le message Quaker réussissait tellement que des centaines d'églises à travers le pays furent vidées de leurs membres, ou des auditeurs, comme les Quakers les appelaient, car ils ne faisaient que s'asseoir et écouter le prédicateur. suivez l'argent. Anthony Pearson à George Fox 30 du 5e mois, 7e mot, 1654. Très cher bien-aimé, avant-hier soir, je suis arrivé à mon logis. J'ai laissé Francis Raugill et Edward Burroughs, John Cam et Richard Robuthon à Londres, le deuxième jour de la semaine dernière. À Londres, nous avons trouvé un très grand nombre de personnes ayant, en elles, un vrai principe d'honnêteté. Mais, pour la plupart, elles sont si élevées dans la sagesse et les notions qu'il est difficile de les atteindre. Rien ne peut entrer jusqu'à ce que leur sagesse soit confondue, et si on les juge, aussitôt elles s'emportent, leur colère s'enflamme, et ainsi la simplicité est foulée aux pieds. Il faut user de beaucoup de sagesse parmi elles, jusqu'à ce que la vérité soit clairement comprise, puis parler à ce qui est dans leur conscience pour relever le témoin, afin qu'elles se voient elles-mêmes, et ensuite prononcer le jugement sur elles, et ainsi les tenir en dessous, loin des disputes et des questions. C'est ce que nous avons trouvé le ministère le plus profitable, et il faut user de peu de mots, car elles ont tenu la vérité en notion, présomption, sans expérience, et tous s'écrient « Qu'est-ce que ces hommes disent de plus que d'autres n'ont dit ?» mais les amener au silence confond leur sagesse. Que nul ne vienne à Londres, sinon ceux qui sont élevés dans la vie de la vérité, qui demeurent dans la puissance vivante de Dieu, dont les paroles ont autorité, car il y en a tant, puissants en sagesse pour s'opposer et contredire, que les faibles laisseront la vérité être foulée aux pieds. Et il y a tant d'apprentis et de jeunes gens grossiers et sauvages, et de rentés, que rien sinon la puissance du Seigneur ne peut les enchaîner. Cher cœur, que nul n'aille à Londres, sinon dans les mouvements clairs et purs de l'esprit de vie, afin que la bénédiction repose sur eux. Et la moisson paraît grande dans cette ville, des centaines sont convaincues, et des milliers attendent de voir l'issue, ayant des persuasions que c'est la vérité. Nous avons visité un grand nombre de sociétés, et nous sommes maintenant en état de tenir ferme. Beaucoup de cœurs honnêtes sont parmi les waiters, et certains qui se sont joints aux rentés astérisques sont des gens au cœur tendre. La puissance vivante de Dieu s'est manifestée pour confondre tous, et nous avons été portés au-dessus de nous-mêmes, à l'étonnement de nous-mêmes et des autres, nous avons été amenés à parler en tremblant parmi eux, dans l'effroi et une grande crainte. Astérisque les rentés étaient très nombreuses et populaires en Angleterre au commencement du mouvement Quake. Ils croyaient que Christ avait détruit la loi, et qu'ainsi rien n'était péché, à moins que vous ne pensiez que c'était un péché, y compris l'adultère, la fornication, l'ivrognerie, etc. Vers 1700, la plupart d'entre eux étaient devenus Quakers. « Quand je pourrai entendre où tu es, je devrai venir à toi. Cher cœur, prie pour moi et pour tous ceux qui sont avec moi, afin que nous soyons gardés dans la crainte du Seigneur, à la louange de son grand nom. Le porteur de cette lettre pour toi me presse, et je ne puis plus écrire maintenant, sinon l'amour de ma femme et de ma famille à tous les amis. » Anthony Pearson. D'après une copie, voici une autre lettre de George Fox de la même période, lettre N25. George Fox aux amis dans la vérité 1653. Amis, l'amour de Dieu est avec vous, les sources s'ouvrent, et les plantes se rafraîchissent des eaux vives. Maintenant, amis, marchez dans la vérité, comme vous l'avez reçue, et attendez dans ce qui vous garde dans le oui et le non, dans une communication pure, dans les bonnes manières, dans une conduite pure par-dessus tout le monde vous régnerez, vous dont la conduite est dans les cieux, et ici vous jugerez le monde en marchant dans la vie. Et vous qui vous détournez de la lumière dont Jésus-Christ vous a éclairé, voici les mœurs corrompues, la mauvaise communication, la conduite impure que la lumière condamne toutes. Vous qui vous détournez de la lumière, vous êtes dans la nature d'Ésaü, et vous choisissez la terre, là est la profanation. Prenez donc garde à la lumière, et attendez de recevoir puissance de Dieu, pour tenir tête à ce que la lumière révèle être mal. Et vous qui vous êtes détournés de la lumière dont Jésus-Christ vous a éclairé, et qui vous tournez vers les prêtres mercenaires qui changent, loin du prêtre qui ne change jamais, vous marchez dans les pas de Judas, et malheur sera votre fin, vous eussiez mieux fait de ne jamais naître, vous êtes des traîtres envers le juste. Vous qui vous détournez de la lumière, vous vous détournez de Christ, comme Judas, et vous qui marchez dans la lumière, vous marchez à la suite de Christ, et il est votre voie, mais vous qui vous détournez d'elle vers les prêtres mercenaires, Judas est votre voie. Et vous qui vous détournez de la lumière, vous vous détournez du commandement de Dieu, Caïn est votre voie. Et vous qui vous détournez de l'esprit, Balaam est votre voie. Et vous qui vous élevez dans la présomption, Corée est votre voie, qui mène à la séparation de soi. Et ce fruit se flétrira, qui est la connaissance naturelle, que l'on voit avec la lumière, et qui doit être condamné par la lumière, qui ne se flétrit jamais, qui est la condamnation du monde, dans laquelle marchent tous les enfants de la lumière. En marchant dans cette lumière, elle vous amènera à recevoir Christ dont elle procède. Voici la voie du salut, et à tous ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le Fils de Dieu n'est qu'un en tout, homme et femme, et la lumière de Dieu n'est qu'une, que tous donc y marchent pour recevoir le Fils, dans cette lumière et l'unité, qui amène à la communion avec le Père et le Fils. Et l'unité est dans la lumière, comme le Père et le Fils sont un, et elle vous amène là où il est, hors du monde, loin du monde, et à n'être pas du monde. Marchez donc dans la lumière, qui est la condamnation de tout le monde, même de ceux de la plus haute religion, qui agissent contre la lumière, et ceci vous est donné de la parole du Dieu vivant. Et vous qui aimez votre âme, aimez la lumière pour attendre Christ, le Sauveur de votre âme, et vous qui entendez la parole, attendez dans la lumière qui vient de la parole, qui conduit à la parole qui était au commencement, qui met en pièces le monde qui gît dans la méchanceté, et le brûle comme par un feu, et qui sépare le précieux du vil. C'est la parole qui rend tout pur, qui est reçue dans le cœur, et c'est la parole de foi que nous prêchons, et le monde prêche les paroles du dehors, étant hors de la vie, et dans la connaissance bestiale qui est condamnée de Dieu, et par tous ceux qui sont de Dieu, qui ont et sont dans la vie des saintes Écritures. C'est pourquoi je vous enjoins tous, en présence du Dieu vivant, d'attendre dans la lumière qui vient de Christ, afin qu'avec elle vous receviez la vie, afin qu'avec la lumière et la vie, qui sont une, vous en veniez à avoir les Écritures ouvertes pour vous, qui ont été données de la lumière. Et ainsi tout le monde, qui n'a pas la vie ni la lumière pour guider son intelligence, mais en est étranger, là sont les sectes, là sont les multiples opinions, là est l'hérésie. De tels, sans la lumière, font profession de la lettre la Bible déclarée de la lumière, mais sont hors de la vie. Par la lumière, tout cela est condamné, et les enfants de la lumière sont dans l'unité, dans ce qui a produit les saintes Écritures. Ainsi, à vous tous, ce témoignage vient de la parole de Dieu. Ceci doit être lu parmi tous les amis partout, car j'ai été poussé par Dieu à vous l'envoyer. George Fox a vie, Fox dit, « Je vous enjoins en présence du Dieu vivant et ce témoignage vient de la parole de Dieu. » Qui, sinon les apôtres, a jamais fait de telles déclarations? Ces déclarations mettent en lumière la différence entre quelqu'un qui a été véritablement rempli et gouverné en parole et en acte par le Saint-Esprit, et quelqu'un qui pense avoir été baptisé du Saint-Esprit. C'est aussi l'un des nombreux signes, étayant les affirmations des premiers Quakers, d'être dans le même esprit que les apôtres. Dans une lettre d'Edward Burroughs à Margaret Fell, datée de 1654, il écrit ainsi, nous étions à une réunion du peuple appelée Waiters à Londres, où Richard Robeson parla environ une demi-heure avec beaucoup de puissance et de sagesse. Francis Raugle fut poussé à aller à une assemblée de gens appelés Seekers, et ils étaient, comme toute cette génération le pratique, à discuter et disputer du sens des Écritures, et il se tint un peu en silence parmi eux, puis il prononça la parole du Seigneur avec puissance et hardiesse, une heure ou davantage, et confondit leur sagesse, et écrasa leur sens des Écritures. Il dit qu'il y avait parmi eux quelques gens civilisés. Collection manuscrite de William Caton énive la lettre suivante, présentée au lecteur, est d'Edward Burroughs et de Francis Raugle, au sujet desquels William Crouch écrit « Au cinquième mois de cette année 1654, il plut à Dieu d'envoyer deux de ses fidèles messagers et capables ministres dans la ville de Londres, Francis Raugle et Edward Burroughs, qui furent les premiers à y déclarer publiquement la vérité. Le Seigneur fit deux des instruments entre ses mains pour rassembler beaucoup de gens qui, comme le bon vieux Siméon, attendait la consolation d'Israël. La lettre décrit très bien l'état des choses parmi les croyants à cette époque, et le récit qu'elle donne des services de ces vaillants ouvriers dans l'Évangile de Christ dans cette grande ville est très intéressant. Edward Burroughs et Francis Raugle étaient des géants au sein du mouvement, de véritables hommes illustres du Seigneur. À Londres seulement, leur prédication contribua largement à ce que les Quakers atteignent une population de 10 000 en 1674, et ce malgré les morts de la grande peste de 1665, et du grand incendie de 1666. Francis Raugle avait été formé comme ministre épiscopalien, puis quitta cela pour devenir ministre puritain, puis quitta encore pour devenir ministre baptiste, tout en cherchant à être libéré du péché. Il entendit George Fox et fut enfin convaincu de la voie pour être libéré du péché du salut. Les lettres doctrinales de Raugle sont parmi les meilleures de ce site. Il y a un mémoire consacré à Edward Burroughs, ainsi qu'un mémoire consacré à Francis Raugle sur ce site. Edward Burroughs et Francis Raugle à Margaret Fell, Londres, le 29 du 6e mois, 8e mot. 1654 chères sœurs, grande est notre sollicitude et la charge qui nous a été confiée, prie afin que nous soyons gardés dans la fidélité et la hardiesse dans l'œuvre du Seigneur qui nous a été confiée, et que la sagesse nous guide pour manier l'épée, afin que nous discernions clairement ce qu'il faut épargner et ce qu'il faut détruire. Grand est notre labeur, jusqu'à ce que Christ soit enfanté dans ce peuple, et notre souffrance est avec et pour la semence pure, qui gît en servitude dans cette ville. Nous deux sommes contraints de demeurer dans cette ville, mais nous ne sommes pas seuls, car la puissance de notre Père est avec nous, et elle se manifeste chaque jour à travers la faiblesse jusqu'à fermer la gueule des lions et à confondre la sagesse du serpent, louanges éternelles à lui à jamais. Dans cette ville, l'iniquité a atteint son comble. La sagesse du serpent est devenue pleinement mûre, ici se trouvent les serpents les plus subtils à affronter et combattre, mais dans la lumière éternelle qui est notre bouclier et notre écu, ils sont saisis, et leurs tromperies nous sont révélées, et par la lumière ils sont jugés et condamnés. Nous avons trois réunions ou plus chaque semaine, très grandes, demandant plus que tout lieu ne peut contenir, ou dans lequel nous puissions nous réunir commodément. Beaucoup de toutes sortes viennent à nous, et beaucoup de toutes les sectes sont convaincus, oui, des centaines croient maintenant, et par la puissance de l'Évangile déclaré parmi eux, le témoin de Dieu est relevé, qui ne mourra jamais. Certains sont extrêmement soumis sous la puissance, ce qui inspire de la terreur au cœur de beaucoup. Beaucoup demeurent sous un vrai jugement, un vrai amour est suscité en beaucoup, et le temps de la rédemption pour beaucoup approche. Pour l'instant, nous savons peu quand nous partirons d'ici. Nous faisons maintenant, et continuerons à décharger nos consciences envers tous, et à être libres du sang de tous les hommes, et à achever notre témoignage. Beaucoup commencent à nous considérer, et pensent qu'il y a là quelque chose de plus qu'une simple notion, eux qui, au début, n'y voyaient rien de plus que cela, mais cela s'enfonce profondément au-dedans de beaucoup, car à cela nous parlons, ce qui les remet en mémoire quand ils sont loin. Le premier jour, avant-dernier, j'étais le matin dans une steeplechase, où il me fut permis de parler librement. Je me rendis ensuite à la réunion de l'après-midi. Le dernier premier jour, Richard Robson et moi sommes allés à 12 milles de la ville, à une grande réunion de séparatistes, en un lieu appelé Siebold's Astérisque où il y avait beaucoup de grands personnages et des officiers de l'armée et autres semblables, et nous avons eu assez de liberté pour parler sans contrainte. Mais quand nous eûmes fini de parler, leurs chefs nous expulsèrent violemment, ce que beaucoup d'esprits simples désapprouvèrent. Le quatrième jour de la semaine dernière, nous avons eu une réunion à Southwark dans une grande salle, où certains anabaptistes se réunissent les premiers jours. Plusieurs d'entre eux étaient là avec plusieurs centaines d'autres. Astérisque le journal de George Fox parle de cet endroit, non loin de Walsama Bay, près duquel vivait le colonel Packer. Il organisa une grande réunion des baptistes à Siebold's Park, car lui et quelques autres officiers l'avaient acheté. Ils étaient extrêmement haut placés dans leurs notions et présomptions, s'imaginant d'une haute stature auprès de Dieu et invectivaient contre les amis et la vérité. Nos chers frères, John Odlan et John Cam, nous ont quittés le dernier sixième jour de cette ville vers Oxford, pour y être le dernier premier jour. Nos cœurs furent brisés en nous séparant d'eux, car nos vies sont liées en une seule, nous participons aux souffrances les uns des autres et à la joie les uns des autres. Nous recevons chaque semaine des lettres des prisonniers de Chesté, l'œuvre du Seigneur se poursuit glorieusement dans ce comté, où se trouve une semence précieuse. Anthony Pearson nous écrit au sujet de la semence précieuse dans le comté de Bishopric Durham, et c'est même notre récompense d'entendre que le Seigneur relève avec puissance ce qui fut semé dans la faiblesse, au Seigneur de gloire, gloire à jamais, souviens-toi affectueusement de nous auprès de tous les amis, car nous sommes rafraîchis par votre considération pour nous. Notre plus grand soin est que nous soyons préservés dans l'obéissance, dans la puissance et dans la sagesse, afin que le Seigneur soit glorifié par nous. Nous cessons d'écrire, mais demeurons vos très chers bien-aimés, de la part de vos frères dans le Seigneur. Edward Burr of Francis Haugill, d'après la collection manuscrite de William Caton. Astérisque la collection manuscrite de William Caton est une précieuse collection de premières lettres, écrite presque entièrement par William Caton lui-même, et paraît avoir été destinée par lui à la publication. Elle comporte une page de titre datée de Swarthmore, le 23 du 6e mois 1659, et une préface signée de lui-même, datée du 7 du 2e mois 1660. Go dans son histoire, après avoir mentionné la visite d'Edward Burroughs et de Francis Haugill à Londres. Il faut garder à l'esprit, en même temps, que c'était une période remarquable par le maintien zélé de la profession religieuse dans la communauté en général, et que, probablement, le langage de l'écriture était assez familier aux professeurs ceux qui prétendent croire en général. Go poursuit, après avoir déclaré qu'Edward Burroughs et Francis Haugill se rendirent ensuite à Bristol, leur prédication était comme celle des apôtres, dans la démonstration de l'esprit et avec puissance, des multitudes accoururent pour les entendre, et beaucoup embrassèrent leur doctrine. Et histoire de Go vol, IP 143. Dans le texte barré ci-dessus, l'éditeur trahit son incrédulité quant au fait que les premiers fondateurs des Quakers aient pu avoir quelque chose de plus que les prédicateurs d'autres sectes, ce qui se limitait au langage et à la connaissance de la Bible. Pourtant, le récit séculier ci-dessus sur la prédication de Haugill et de Burroughs leur attribue le mérite de prêcher comme les apôtres, dans la démonstration de l'esprit et avec puissance, des multitudes accourent pour les entendre, et beaucoup embrassent leur doctrine. Ce n'était pas un événement inhabituel, des milliers vinrent entendre Fox partout où il allait. Lorsque Haugill et Burroughs allèrent à Bristol, des milliers les suivirent après avoir entendu leur prédication, à tel point qu'ils durent chercher un abri contre cette attention. Ces hommes parlaient depuis l'Esprit de Dieu, avec des paroles fournies par Dieu. Il parlait avec une autorité qui dépassait de loin les capacités de quiconque fondée sur la connaissance de la Bible. Quel dommage que les principaux soi-disant Quakers des années 1800 n'aient pas pu accepter la nécessité de la mort spirituelle sur la croix, ni croire le témoignage des premiers Quakers, qui affirmaient et démontraient être dans le même esprit que les apôtres. N.V. Francis Raugela Robert Withers, Londres, le 23 du 7e mois, 9e mot. 1654 Chers frères, Edward Burroughs et moi demeurons encore dans cette ville, grand est l'amour de Dieu pour nous, et l'œuvre du Seigneur prospère entre nos mains, louange éternelle et vivante à lui à jamais. Nous sommes ici, parmi ce grand nombre de personnes, dans une grande faiblesse, et lorsque nous voyons de telles multitudes, nous sommes souvent préoccupés de savoir comment nous obtiendrons assez de pain spirituel pour en rassasier tant. Mais la sagesse et la puissance de Dieu ont été avec nous, et il y en a des centaines qui en sont convaincus, mais il n'y a pas beaucoup de grands ni de nobles qui reçoivent notre témoignage. Pourtant, beaucoup sont réduits à l'embarras et amenés au silence, et beaucoup sont sous un jugement profond et une puissance véritable. Nous avons eu à affronter beaucoup de grands géants, mais, par la puissance du Seigneur, la gueule des lions a été fermée, et nos adversaires ont été mis en fuite. Nous avons été continuellement dans un grand service depuis que nous sommes venus dans ce lieu immonde. Ici se trouve la prostituée parée, le mystère de la sorcellerie, et le diable règne et est chef en toutes sortes. Nous avons été dans les sociétés les plus éminentes de la ville, et nous avons eu avec eux de vigoureuses disputes à maintes reprises, parfois dans les maisons à clocher astérisques, et bien qu'ils nous méprisent personnellement, ils disent que nul ne parle comme nous, mais le diable ne peut pas s'abaisser si bas. Nous avons deux ou trois réunions par semaine, mais aucun lieu n'est assez grand, ce qui rend notre tâche plus difficile. Nous avons été conduits avec beaucoup de sagesse, de sorte que tous ceux qui nous haïssent n'ont rien à nous reprocher, ne serait-ce que des troubles ou du désordre. Certains attendent pour nous tendre un piège, mais nous sommes conduits avec sagesse, loué soit le Seigneur. Astérisque, puisque l'Église est le corps de Christ, appeler une bâtisse une église diminue la véritable Église. Ainsi, les Quakers désignaient les bâtiments des sectes comme des maisons à clocher, parce qu'ils avaient invariablement un clocher surmonté d'une cloche. Milhalhead et James Lancaster étaient ici et sont venus nous rendre visite. Ils sont restés un premier jour, puis ont été poussés à poursuivre vers Cambridge. Nous sommes grandement rafraîchis, nous avons reçu des lettres de toutes parts, l'œuvre avance rapidement partout, louange éternelle et vivante à lui pour toujours. Richard Robeson est toujours en prison et James Pownell est à Cambridge. Astérisque, nous avons des nouvelles de nos chers frères, John Audlan et John Cam, et nous nous écrivons deux fois par semaine, et ils sont près de nous, ils sont précieux, et l'œuvre du Seigneur est grande autour de Bristol. J'ai joint une lettre, afin que vous connaissiez leur succès dans l'Évangile et que vous vous réjouissiez avec nous. Vraiment, notre corne est exaltée, et nos armes sont puissantes pour renverser les forteresses, louange à jamais. Astérisque, dans une lettre de Richard Robeson à Francis Raugel, datée de Cambridge, le 4 du 7e mois, 1654, il écrit « James Pownell et moi sommes encore dans le cachot, où l'on nous a mis le 28 du mois dernier, mais nous sentons la puissante puissance de Dieu, et nous sommes dans la joie et la paix dans le Seigneur, à lui soit la louange éternelle à jamais. Priez pour nous, chers frères, afin que nous soyons gardés dans la sagesse et la puissance, afin que le Dieu vivant soit exalté à jamais. Ma chère compagne de joug vous salue, saluez de notre part tous les amis, votre chère épouse et tous ceux qui, partout, s'inquiètent de nous. Votre cher ami dans l'œuvre du Seigneur, Francis Raugel d'après l'original. L'année est notée par Fox 1654 Novi à propos de l'auteur de la lettre suivante, John Whiting nous informe dans ses mémoires. Alexandre Pock est un ancien éminent serviteur de Dieu et ministre de Jésus-Christ. Il naquit dans le Yorkshire près de Bolton dans le Lancashire, fut bien éduqué et avait tant par sa personne que par son maintien et ses manières une allure de gentilhomme, car je le connaissais bien. Il monta à Londres avec George Fox lorsqu'il fut amené du Leicestershire par le colonel à cœur auprès d'Olivier Cromwell en 1654. Il resta avec lui à Londres et dans ses environs quelque temps, puis alla avec lui à une réunion générale chez John Crook, dans le Bedfordshire, en 1655. Il écrivit beaucoup de livres et d'épîtres utiles aux amis, qui méritent d'être lus, et bien qu'il soit mort, il parle encore. Mémoire de John Whiting, p. 390-393. Alexandre Époque à Margaret Fell, Londres, 22 du 12e mois 1654. Deuxième mois 1655, chère sœur, le 4 jour du 12e mois, George Fox était à une réunion à Swannington et plusieurs soldats vinrent de Leicester, mais ils furent très civils et modérés et entendirent avec patience la parole du Seigneur astérisque puis s'en allèrent paisiblement. Le même jour, Thomas Taylor et moi étions à Lichfield et eûmes une réunion à laquelle assistaient des personnes de toutes sortes. Astérisque entendirent avec patience la parole du Seigneur signifie qu'ils écoutèrent George Fox parler, par l'Esprit de Dieu, les paroles qui lui étaient données en la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de lire ou de citer la Bible. George Fox faisait une immense distinction entre citer la Bible et dire la parole du Seigneur, ce qu'il faisait. Les premiers Quakers appelaient ceux qui se contentaient de lire ou de citer la Bible des ministres de la lettre, plutôt que des ministres de l'Esprit. 2 Cor 3:6. Pour que ce soit parfaitement clair, George Fox disait que les ministres de son époque, comme ceux d'Ojudieu, n'étaient pas aussi avancés spirituellement que l'ânesse de Balaam, car les ministres ne pouvaient même pas entendre la parole du Seigneur, tandis que l'ânesse de Balaam pouvait non seulement entendre la parole du Seigneur, mais aussi la parler. Nom 22, 28-30. Vous remarquerez peut-être que, dans beaucoup de lettres de Fox, il écrit « Ceci est la parole du Seigneur pour vous, où je vous adjure tous en la présence du Dieu vivant. » Il existe aussi un résumé de ces déclarations, disponible pour votre examen. Le 4e jour de la semaine, nous rejoignîmes George Fox à Swannington, et il fut poussé à fixer une réunion à Whetstone, et comme personne n'était là pour l'accompagner, j'allais avec lui. Le premier jour, beaucoup d'amis s'étaient rassemblés de divers endroits et attendaient le Seigneur. Le maréchal et environ 8 soldats entrèrent dans la réunion, plusieurs s'assirent et furent très civils. Et au bout d'un certain temps, le maréchal parla et montra un ordre du colonel Acker, selon lequel chacun devait retourner à sa demeure extérieure, sinon il devait l'accompagner chez le colonel. Il commença donc et interrogea les amis sur le lieu de leur demeure extérieure, et il demanda quand ils retourneraient. Quant à George, son compatriote, que 2 seulement l'accompagnent et satisfassent le colonel pour le reste. Puis le maréchal demanda à George de prendre son cheval et de les accompagner. George répondit alors, « Si vous me commandez d'y aller, je ne résisterai pas. Comme je n'avais pas la liberté de quitter George, j'allais avec lui. » Après notre arrivée chez le colonel Acker, le colonel parla à George de bien des choses. Ils le fouillèrent ensuite pour y trouver des armes ou des écrits compromettants et l'informèrent qu'il devait aller à Londres rencontrer Oliver Cromwell astérisque le capitaine Drury, l'un des gardes du corps du protecteur, nous escorta à Londres. Oliver Cromwell était le général puritain qui conduisit la révolution du Parlement contre le roi Charlier, le vainquit et le fit décapiter. Cromwell remplaça ensuite le roi, mais avec le titre de protecteur au lieu de roi. On l'appela alors Oliver le protecteur, ou O.P., ou le protecteur. Après avoir dit qu'il logeait à l'auberge de la Sirène, à Charing Cross, la lettre poursuit, puis le capitaine alla auprès du protecteur et l'informa de leur arrivée. Le protecteur dit qu'il le verrait et qu'il parlerait avec George, mais quand, il ne pouvait le dire. Le capitaine était très aimant et ne voulait entraver en rien la liberté de George, il désirait seulement que l'un de nous reste à l'auberge. Le 4e jour, George monta dans la cité avec quelques-uns de nos amis. Le 1er jour après-midi, William Caton et moi étions à une réunion à Moorfields, où il y avait beaucoup d'amis, une puissance puissante était là parmi eux, et il y a parmi eux beaucoup de cœurs tendres. Le 4e jour au soir, une réunion fut fixée chez Gérard Robert, où il y eut une très grande assemblée d'amis, George était présent parmi eux. La présence puissante du Seigneur était avec nous, et les jeunes plantes tendres furent rafraîchies, et certains furent amenés à rendre témoignage à la vérité. Votre cher frère, Alexandre Pock de la collection de manuscrits de William Caton, nous vit la lettre suivante poursuit le récit de la comparution de George Fox devant le protecteur. Dans son journal, George Fox donne un compte rendu complet et très intéressant de cet entretien avec Oliver Cromwell à Whitehall. C'est à cette occasion qu'un écrit fut adressé par George Fox au protecteur, dans lequel il niait prendre une arme charnelle contre lui ou contre aucun homme. Après cet entretien, le protecteur déclara qu'il était libre et pouvait aller où il voudrait. Alexandre Pock à Margaret Fell, Londres, 10 du 1er mois, 3e mois 1655. Très chèrement aimé, notre très cher bien-aimé, George Fox, a été remis en liberté par Oliver Cromwell pour aller où il lui plaît. Il n'a jamais été sous aucune contrainte, mais avait la liberté de circuler parmi les amis. Le 6e jour de cette arrestation, il fut conduit devant le protecteur et demeura avec lui un bon moment dans sa chambre à Westminster. Cromwell fut très aimant envers George et souhaita que George revienne le voir, puis il le remit en liberté pour aller où il voudrait. Ainsi, nous sommes encore dans cette ville et y demeurons quelque temps. De nombreux amis se sont joints ici, comme Francis Haugill et Edward Burroughs, Thomas Soltraus, Mill Halhead, William Caton, John Stubb et plusieurs autres, mais je crois que nous nous disperserons au loin après-demain. Il ne nous manque rien. Il y a dans la ville beaucoup d'amis précieux qui feraient tout pour nous ou nous donneraient tout, mais George n'est pas très libre, il se tient plutôt à l'écart. Nos chevaux sont à l'auberge où nous logeons la nuit, Mais tant de gens viennent voir Georges que les gens de l'auberge se lassent et souhaitent que nous trouvions un autre endroit, seuls les chevaux pourraient rester. Ainsi, pour l'instant, je m'arrête, avec mon tendre amour pour vous et votre famille. Je suis à vous, Alexandre Pock de la collection de manuscrits de W. Caton Novi, il est remarquable avec quelle haute estime et quel amour chrétien Margaret Fell semble avoir été considérée par les premiers et les plus éminents Quakers. Elle paraît avoir été généralement reconnue comme la fidèle mère nourricière, et elle leur adressait souvent, lorsqu'ils étaient enchaînés ou autrement, des lettres de consolation et d'encouragement. Dans la maison, qu'elle partageait avec son mari à Swarthmore, Margaret Fell servit de siège de fait du premier mouvement Quaker. Elle était elle-même ministre, l'une des vaillants 60, mais sa maison de Swarthmore fut le berceau du mouvement Quaker. La plupart des premiers Quakers y avaient passé du temps avant d'atteindre la maturité dans le Seigneur, attendant le Seigneur avec elle, ainsi qu'avec d'autres invités du manoir. Pendant nombre des premières années, elle fut l'unique point de contact pour les autres ministres Quakers qui se déplaçaient à travers la nation et le monde. Elle transmit les informations venant d'autres premiers Quakers dans un prodigieux flot de lettres adressées aux Quakers à travers l'Empire britannique. En tant que ministre, elle fut très active dans ses visites aux réunions de la campagne environnante du Nord. Elle passa au total 10 ans en prison, plus que toute autre femme Quaker, pour avoir tenu des réunions dans sa maison et pour avoir refusé de prêter serment au tribunal. Edward Burroughs et Francis Haug et la Margaret Fell, Londres, 27 du 1er mois 3e mois 1655. Chères sœurs, vous qui êtes un sarment fertile dans la vigne vivante et une plante agréable dans le jardin de Dieu, nous sommes dans cette ville depuis près de 3 semaines, dans un grand labeur et service. George Fox, avec beaucoup d'autres de nos frères, était ici quand nous sommes arrivés. Nous sommes tous restés un premier jour entier après notre arrivée à nous deux dans la ville. Ce jour-là, George Fox était en privé avec des amis, et nous deux étions dans le lieu de réunion générale, parmi le monde grossier, à battre et à labourer, et le reste de nos frères étaient ce jour-là à plusieurs réunions, les uns à l'une et les autres à une autre, et certains parmi les baptistes et les gens rassemblés, et ce jour-là il y eut un grand service. Peu après ce premier jour, les frères se séparèrent vers les champs, la campagne pour moissonner et rassembler. Richard Clinton et Thomas Bond sont allés vers Norwich et dans le Suffolk et par là, et ils y sont en grand service. John Stubbs et William Caton sont allés vers Douvres. Nous avons reçu une lettre d'eux depuis qu'ils sont allés à Douvres. Le maire et les officiers les ont strictement interrogés et leur ont enjoint de garder la paix. Ils étaient avec des gens rassemblés et dans quelques maisons à clocher et ont subi peu de persécutions. Milral Head et Thomas Holthouse sont allés vers Plymouth. Ils ont eu une grande réunion un premier jour à Reading, et beaucoup, écrivent-ils, furent convaincus. George Fox est à présent dans le Bedfordshire, Alexandre Pock et avec lui, il y a un peuple destiné à venir au Seigneur par là. John Audeland était ici avec nous, mais va vers Bristol prochainement, autant que nous sachions. James Lancaster était avec nous dans cette ville, mais est parti rejoindre George Fox. Richard Robeson est toujours en prison. John Cam est à Bristol ou près de Bristol. Nous croyons que George reviendra dans cette ville, nous deux sommes trop peu nombreux dans cette ville pour ce service, car en vérité, il est très grand, à présent beaucoup viennent chaque jour à la reconnaissance de la vérité. Les amis sont si nombreux qu'aucun lieu ne peut les contenir les premiers jours, où nous puissions nous réunir paisiblement à cause des gens grossiers, car depuis notre arrivée, ils ont été très grossiers, très souvent à vouloir nous renverser lorsque nous parlions. George était au grand lieu de réunion 2 premiers jours avant notre arrivée, et sa voix et son homme extérieur étaient presque épuisés parmi eux. Voici comment nous avons ordonné les choses depuis notre arrivée. Nous faisons en sorte que les amis, les premiers jours, se réunissent en plusieurs endroits, à l'écart de la multitude grossière, et nous deux allons au grand lieu de réunion que nous avons, qui peut contenir 1000 personnes et qui est presque toujours plein. Nous y allons pour battre parmi le monde, et nous y restons jusqu'à 12h. Puis nous partons, l'un vers un endroit et l'autre vers un autre endroit, où les amis sont réunis en privé, et nous y restons jusqu'à 4 ou 5 heures. Vraiment, cher cœur, notre souci est pour tout le corps, afin que toute chose soit ordonnée dans la sagesse de Dieu, pour la confusion de tous nos adversaires qui cherchent à nous arrêter. Nous reposons avec vous dans le sein de l'amour, et nous sommes vos chers frères, Edward Burroughs, Francis Haugill, P.S. Thomas Aldam a été auprès d'Olivier Cromwell et lui a déchargé sa conscience. Il lui fut donné d'être un signe pour lui en déchirant une coiffe de lin, avec laquelle il alla le voir, sur la tête, et lui dit que toutes ses couvertures et ses conseils seraient mis en pièces, mais son celui de Cromwell cœur est endurci, et il ne peut croire. Il semble qu'il ait eu tant de travail avec la multitude en quête, qu'il pouvait difficilement se réunir avec leur propre corps pour le culte. Une lettre de F. Haugill, daté de Londres, 2 du 8e mois, 1654, dit « Notre fardeau est grand, nous ne pouvons obtenir aucune séparation d'avec la multitude, et ainsi les amis ne se connaissent guère, et nous ne pouvons commodément trouver aucun endroit pour nous réunir afin que les amis puissent s'asseoir. » La multitude en quête était le résultat de la prédication des premiers Quakers en parole et en puissance par le Saint-Esprit. Des ministres de l'Esprit, non des ministres qui citaient leur connaissance grossière de la Bible depuis leur esprit charnel, proférant une divination de leur propre cerveau, et volant les paroles des saints sans comprendre ce qu'elles signifiaient. Les foules pouvaient entendre la différence, et c'est pourquoi elles affluaient par milliers aux réunions pour entendre les Quakers prêcher la parole vivante de Dieu par les lèvres des premiers Quakers transférés dans le royaume. De la collection de manuscrits de William Caton, Noix Alexander Pock à Margaret Fell, Londres, 3e du second mois, 4e mois 1655. Chère sœur, mon tendre et cher amour dans le Seigneur Jésus-Christ vous salue, vous et les autres chers et précieux amis de votre maison. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient multipliées parmi vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le 16 jour du premier mois, Georges et moi, ainsi que quelques autres amis de la ville, sommes sortis de cette ville pour aller à la maison du juge Crook dans le Bedfordshire. C'est un homme bon, et il y aura une famille précieuse, sa femme est très abattue et d'un cœur très tendre, ainsi que d'autres dans sa maison. Le 18e jour, étant le premier jour, il y eut une réunion à la maison du juge, où il y avait beaucoup de gens, tous sobres et tranquilles. Georges demeura à la maison du juge Crook, et nous y fûmes environ 15 jours, moi et d'autres eûmes beaucoup de réunions dans la campagne d'alentour. John Audeland y était, et James Lancaster, et Gervas Benson, Thomas Story, Thomas Stubb, et quelques autres, nous fûmes en grand service pendant notre séjour. Il y a une grande effervescence dans ce pays-là et dans d'autres lieux de cette région. Le dernier jour du premier mois, George Fox, Gervas Benson et moi sommes venus dans cette ville, où nous avons eu 5 réunions. 3 des réunions étaient celles d'amis qui se réunissaient en silence, et George était à l'une d'elles, où beaucoup de gens du monde entrèrent mais furent sobres. Francis Haugill et Edward Burroughs étaient au grand lieu de réunion, où beaucoup vinrent entendre. Gervas Benson et moi étions à une réunion au-delà de Westminster, où beaucoup sont convaincus. Le matin, la vie ayant été si courte, il n'y en eut pas beaucoup, mais l'après-midi il en vint énormément, et c'étaient des gens sobres et tranquilles. George Whitehead est de nouveau emprisonné pour être venu à la fenêtre de la prison parler aux amis. John Stubb et William Caton ont été 3 fois conduits devant le maire à Douvres, mais sont encore en liberté autant que je sache. Votre cher frère, Alexandre Pock, d'après l'original George Fox, parlant de cette réunion chez John Crook, dit « Ce fut une grande réunion, et les gens furent généralement convaincus de la vérité du Seigneur. Quand j'y fus arrivé, John Crook me dit que, le lendemain, plusieurs de ceux qu'on appelait des gentilshommes du comté viendraient dîner avec lui et s'entretenir avec moi. Ils vinrent, et je leur déclarai la vérité éternelle de Dieu. John Crook fut soutenu par la puissance du Seigneur, pourtant, il fut expulsé de la charge de juge. Au journal, 1654-5. John Crook vécut jusqu'à un âge avancé. Notre registre du Hertfordshire consigne son décès comme suit. John Crook, un ami ancien et honorable et ancien, ministre de l'Évangile pendant environ 44 ans, mourut à Hertford le 26 du second mois, 1699, et fut enterré à Sewell le 30 du même mois, âgé d'environ 82 ans. Comme John Crook avait été juge de paix avant d'être déchu de sa charge à la suite de sa conversion au cacrisme, il avait une grande connaissance du droit. Quand il fut traduit devant les tribunaux pour avoir assisté à une réunion Quake, il mit les juges en difficulté en citant des lois montrant qu'un tel procès violait ses droits d'anglais. Pour le récit de l'un de ces procès, voir Record of Persecution y. Noix Alexander Pock à Margaret Fell, Londres, 10 du 3e mois, 5e mois 1655. Chère sœur, notre très cher bien-aimé George Fox est encore dans cette ville, et je sais peu pour l'instant de son départ. L'œuvre est grande, et beaucoup sont convaincus chaque jour. Nous avons 7 ou 8 réunions chaque premier jour, et toutes sont assez calmes. Francis et Edward ont une grande dispute avec le chef des baptistes le 3e jour de cette semaine, et le 4e jour une autre avec 2 des chefs des baptistes d'eau. Beaucoup de leurs auditeurs, qui ne sont pas satisfaits, vinrent, ainsi que certains de nos amis, et la puissance du Seigneur fut au-dessus d'eux. Bien qu'ils soient une génération très sage et subtile, le Seigneur, par sa sagesse dans les faibles, les confond et les renverse. Il y a un grand ébranlement parmi toutes les formes et les églises rassemblées, comme on les appelle, et beaucoup s'enquièrent de la vérité. Astérisque astérisque journal de George Fox, 1654. Les presbytériens, les indépendants et les baptistes furent grandement troublés. car beaucoup de leurs gens se tournèrent vers le vrai Seigneur Jésus-Christ et s'assirent sous son enseignement, ils reçurent sa puissance et la sentirent dans leur cœur, et alors ils furent poussés par le Seigneur à déclarer contre tous les autres. Concernant nos amis à Northampton, y compris William Dewsbury et John Whitehead, ils continuent tous en prison, autant que je sache. Des amis du Yorkshire ont dernièrement été avec eux et ont pourvu à leurs besoins, ceux de Bedford continuent aussi en prison. Quant aux amis de Norwich, ils ont tous été relâchés sauf Christophe Atkinson. John Stubb et William Caton étaient avec nous la semaine dernière, ils sont doucement conduits dans l'œuvre du Seigneur et sont beaucoup fortifiés, ils sont repartis vers Douvres. John Slee et Thomas Lawson sont allés dans le Sussex. John Wilkinson et John Story vont vers l'ouest. Thomas Saltraus et Mill Railhead sont autour de Bristol, et ne manquent de rien, pas plus qu'aucun ami, car à mesure qu'ils montent ici, s'ils manquent de quelque chose, nos amis Francis et Edward y pourvoient. La tâche est vraiment grande, mais notre désir est de la rendre aussi facile que possible. Dans cette ville, il y a beaucoup d'amis précieux, et ils commencent à connaître George Fox, bien qu'au début il leur fût étranger. Et une chose qu'ils remarquent tous, c'est que si George est en compagnie, tous les autres, pour la plupart, se taisent, ce qui les étonna beaucoup ». Ils se taisaient afin de pouvoir écouter et apprendre. Ils reconnaissaient en Fox une plus grande mesure de Christ, car il parlait avec une autorité claire, contrairement au ministre de la lettre. Il parlait depuis la présence de Dieu avec des paroles venant de Dieu. Nos frères Thomas Aldam et Anthony Pearson sont arrivés en ville la nuit dernière, et ils sont maintenant avec George. Francis et Edward et Gervas Benson sont tous ici, ils vous font rappeler leur cher amour, à vous et à tous nos amis de votre maison. Saluez bien de ma part mes chères sœurs, vos enfants, ainsi que le reste des précieux amis qui restent fidèles au Seigneur auprès de vous. Que le Dieu éternel de paix et d'amour vous garde tous et vous affermisse dans son amour. Que vos prières soient pour moi, afin que je continue dans la puissance de notre Dieu et que je sois préservé au-dessus de toute tentation, pour sa gloire. Votre cher et aimant frère dans la communion de l'Évangile de Christ, Alexandre Pock. De la collection de manuscrits de William Caton, Noxy Francis Raugill à Margaret Fell, Londres, 21e du 3e mois, 1655. Ma très chère sœur bien-aimée, je sais que votre joie est d'apprendre la prospérité de l'œuvre du Seigneur, afin qu'il soit exalté, lui qui nous a couverts et nous a choisis pour rendre témoignage à son nom glorieux et publier au loin son amour éternel, afin que tous puissent connaître le chemin de la vie éternelle. En vérité, le bras du Seigneur est avec nous en sagesse, en force, en puissance, en parole, en hardiesse, si bien que je ne puis m'empêcher de dire, « Oh, les richesses infinies de son amour et de sa miséricorde inexprimable, cher cœur, louez le Seigneur pour nous, et que tous ceux qui le connaissent se réjouissent avec nous. Dans son amour et sa puissance je me glorifierai, mais non de moi-même. » Priez pour nous, car notre travail est doublé, notre souci est doublé, mais notre force est aussi renouvelée. L'œuvre est grande dans cette ville, mais peu même y sont aptes. Le dernier premier jour, il y eut 10 réunions dans la ville, et le travail repose sur George Fox et nous deux, Francis Raugill et Edward Burroughs. Un peuple précieux est ici, il grandit en sagesse et en vie, et beaucoup s'ajoutent. Tous les prêtres et toutes les congrégations rassemblées de la ville prêchent contre nous, sont animés d'une grande rage, impriment des mensonges et excitent beaucoup les gens. Edward Burroughs et moi avons d'ordinaire deux disputes publiques avec leur chef, et ils perdent leurs membres si vite qu'ils ne savent que faire. Pourtant la ville est assez calme et tranquille, la sagesse commence à croître parmi les amis, et plusieurs sont poussés à aller de l'avant dans le ministère. Deux jeunes hommes et deux jeunes femmes sont poussés à partir pour la Barbade, hors de la ville, et un autre jeune homme, un Écossais, est poussé à aller en Écosse. Deux autres femmes sont allées au pays de Galles, et deux autres à Oxford, toutes celles-ci sont des citadines. Et beaucoup sont poussés à aller dans leurs églises, dont ils étaient auparavant membres, et à déclarer contre elles. Certains sont poussés à aller dans les maisons à clocher, et pourtant ils sont gardés en liberté. Il y a ici beaucoup d'amis qui ont été emprisonnés à cause des dîmes, il y en a près de 30 dans la ville, et il nous incombe beaucoup de soins pour les organiser, ainsi que pour les frères au loin qui sont à l'œuvre du Seigneur ou enchaînés. Anthony Pearson, Gervas Benson et Thomas Aldam sont ici, leur service concerne maintenant beaucoup les amis qui comparaissent aux tribunaux, ce trimestre, au sujet des dîmes. Alexandre Pock est parti dans le Bedfordshire. John Stubbs a quelques impulsions pour la Hollande avec William Caton, et il est dans le Kent avec Thomas Robertson et Ambrose Rigg. John Slee et Thomas Lawson sont partis dans le Sussex, Mill Railhead et Thomas Saltraus sont partis vers Plymouth. Notre liberté ici est d'un grand avantage pour toutes les églises de Christ partout, gloire à celui qui nous préserve dans son sein et sous l'ombre de son aile. tous sont libres à Norwich. Edward Burrough vous salue, et saluez de notre part toute votre famille et tous les amis. Votre frère, Francis Raugel de la collection de manuscrits de William Caton Noxy Alexander Pock à Margaret Fell, Londres, 29 du 3e mois, 5e mois 1655. Ma chère sœur, hier je suis venue de chez le juge Crook dans cette ville. Les amis vont bien ici, et la vérité fleurit, gloire à notre Dieu pour toujours, nos chers frères Francis Raugel et Edward Burrough sont sortis aujourd'hui de la ville vers Norwich, le Norfolk et le Suffolk. Leur amour est tendrement rappelé à vous et à votre famille. Gervas Benson, Anthony Pearson et Thomas Aldam sont encore en ville, mais comptent retourner bientôt vers le nord. Hier, ils étaient avec le protecteur et lui ont remis quelques papiers au sujet de l'emprisonnement de nos amis, et ils lui ont parlé de bien des choses, il fut très modéré et promit de lire les papiers. Mill Halred et Thomas Holthouse sont en prison à Plymouth à cause du serment d'abjuration, refusant de prêter serment. Jeanne Waugh a été libérée à Banbury. Elizabeth Fletcher et Elizabeth Holm ont été libérées à Dublin et y sont en grand service. George Fox est encore dans cette ville, mais pense, autant que je sache, sortir cette semaine vers le Kent. Si le Seigneur le veut, je me propose de voyager avec lui. Votre cher frère dans l'amour qui ne change pas, Alexander Pock de la collection de manuscrits de William Caton, Noxy Francis Raugel à Margaret Fell, Londres, date non donnée, probablement vers le 4e ou 5e mois, 1655. J'ai reçu vos lettres, celles adressées à Oliver Cromwell ont toutes deux été remises en main propre, mais il est plein de subtilité et de tromperie, parle bien, mais endurcit son cœur et agit secrètement en dessous. Notre armée de ministres est pour la plupart dispersée, brisée et jetée en prison. Je n'en connais presque aucun en liberté, sinon George et Alexander Pock, Edward Burrough, moi-même, Gervas Benson, John Stubb, William Caton, John Wilkinson et John Story. Et il semble qu'ils ne resteront pas longtemps hors de prison, pourtant, en vérité, la puissance du Seigneur est au-dessus de tout. L'œuvre du Seigneur est grande et avance rapidement, malgré toute la rage des païens. George Fox est ici. Nous avons 5 ou 6 réunions chaque premier jour d'amis, outre les 2 grands lieux pour une aire de battage, les réunions des curieux, mais non convaincus, qui doivent être battus par la puissance du Seigneur pour être convaincus, et nous avons établi une réunion un peu au-delà de Whitehall, près de Westminster. Beaucoup entrent, beaucoup s'enquièrent, et beaucoup sont convaincus chaque jour. Gloire et honneur au Seigneur pour toujours. Richard Clinton et Richard Robeson restent enchaînés, mais George Whitehead et Dossie Wong sont libres de la prison de Norwich. Mill Halhead et Thomas Holthouse sont en prison à Exeter. James Lancaster et Thomas Stubb, ainsi qu'un autre ami, sont emprisonnés à Bedford. Edward Burrough est parti pour Edmondsbury. Je veillerai à pourvoir aux besoins des amis dans ces régions tant que je serai ici. Et en vérité, je crains que le fardeau astérisque ne soit lourd sur le nord, car la charge est grande et notre camp est grand. Astérisque de toute évidence, les nombreux Quakers du nord de l'Angleterre soutenaient financièrement les efforts d'évangélisation des ministres envoyés au sud et à l'ouest par le Seigneur. Dans plusieurs écrits, il est dit que ceux de Londres qui avaient des besoins étaient dirigés vers Edward Burrough ou Francis Raugel. Votre frère dans la communion de l'Évangile de Christ, Francis Raugel de la collection de manuscrits de William Caton ci-dessous, figure une autre des lettres de George Fox, nos 99, insérées dans la séquence chronologique. George Fox à tous ceux qui font mention du nom du Seigneur et qui professent sa vérité vivante. 1655 amis, un avertissement et une injonction à vous tous, depuis la présence du Dieu vivant. Que toute légèreté et frivolité, sottise, entêtement et écume soient jugées avec patience, qu'ils viennent au feu et soient brûlés, ainsi que le foin, le bois et le chaume, et tout ce qui est au-dessus de la semence. Celui qui bâtit là est au-dessus du fondement, ses œuvres doivent être brûlées, il en subira la perte. C'est pourquoi, que tous demeurent abaissés jusqu'à la semence de Dieu, et sentent cela au-dessus de tout, cette semence qui hérite de la promesse de Dieu, afin que rien ne règne sinon la semence elle-même qui hérite de Dieu. Ainsi que tous entrent dans l'autorité de Dieu, qui n'est pas usurpé, qui donne la domination sur toute autorité usurpée, afin que vous viviez tous dans l'unique puissance du Fils de Dieu, qui amène tous à l'unité et soumet toute chose qui cause l'inimitié. Ainsi l'unique puissance, l'unique âme, l'unique cœur, l'unique pensée sont attestées. Ici la gloire est révélée parmi vous, et l'unique tête Christ, la semence, et vous êtes tous d'une seule famille. Ici est connue la puissance du Fils de Dieu, toute puissance lui ayant été donnée. Cette puissance et cette semence écrasent la tête du serpent et la brise, et c'est là que se tient l'inimitié. Ainsi, toute puissance est donnée au Fils pour régner, soumettre et juger. Ainsi, vivez dans la puissance, et vous vivez dans l'unité, vous vivez dans la paix, vous vivez tous dans la soumission les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. vous vivez tous dans la semence, qui est une, qui demeure au-dessus de la tête du serpent, et maintient sa tête en bas, et l'amène dessous. Ainsi sentez la semence de Dieu, en chaque particulier, être la tête chez l'homme et chez la femme, et alors vous en venez à être os de ses os et chair de sa chair, et à hériter chacun, dans le particulier de la promesse de Dieu, par quoi vous pouvez devenir héritier dans la force du Seigneur, la sentant et la confessant dans vos propres particuliers. Ainsi la semence du serpent, tenue en bas par la semence qui est Christ dans le particulier, amène à voir au-dessus de tout ce qui est contraire. George Fox et Ngzive Alexander Pock à Margaret Fell, Londres, le 3 du 7e mois, 9e mot, 1655. Très chère sœur bien-aimée, je vous salue très affectueusement. Notre vie est une, notre joie une, notre souffrance une, notre nourriture et notre vêtement, mangeant tous deux d'un même pain et buvant tous deux d'une même coupe dans la maison du Père, où il y a du pain en abondance et des sources d'eau vive pour rafraîchir les tendres plants, où les nouveau-nés sont nourris et alimentés de lait et reçoivent leur nourriture solide en son temps, où il y a joie et allégresse en la présence du Seigneur et des délices pour toujours, dont ne jouissent que ceux qui ont suivi l'agneau à travers bien des tribulations, des épreuves de feu. Alléluia, louanges à son nom glorieux à jamais, lui qui nous a appelés et choisis, et nous a fait participants de la nature divine, et qui nous a rachetés du monde et de ses souillures, afin que nous soyons témoins de son nom puissant. Dans sa puissance et son libre amour, il nous a envoyés au loin dans le monde, pour détourner d'autres personnes des ténèbres et de leur vaine conduite, afin qu'elles aient communion avec nous dans la lumière de son Fils, et qu'elles louent et glorifient sa majesté éternelle pour toujours et à jamais. La vérité, dans cette ville, se répand et prospère. Nous avons de nombreuses grandes assemblées, et de grands personnages du monde y viennent et en sont profondément touchés. James Nelly est adapté à ce grand lieu, et un grand amour naît en beaucoup à son égard. Notre bien-aimé, George Fox, a l'intention cette semaine de partir à la campagne vers le nord, mais jusqu'où au nord je ne puis encore le dire. Le prochain 5e jour, mais pas le tout prochain, une réunion est fixée dans le Lincolnshire, où George a l'intention d'être. Pour l'instant je ne sais rien d'autre sinon que je passerai avec lui, si autrement il en est ordonné, je demeure seul dans la volonté du Seigneur. Nous avons reçu qu'une lettre de Francis et d'Edward depuis l'Irlande, ils ont tenu de nombreuses réunions, et beaucoup d'auditeurs qui confessent la vérité en parole, le temps le montrera davantage. Mill Halhead et Thomas Oltraus demeurent prisonniers à Exeter avec quelques autres, John Cam et John Audelan sont libres dans l'œuvre du Seigneur, à Bristol et dans ses environs. William Dewsbury et les autres continuent en prison à Northampton, et trois, dans cette ville, sont au Bridewell pour avoir parlé au prêtre. Alexandre Pock, collection de manuscrits de William Caton, dans une lettre datée du 28 du 5e mois 7e mot. De cette année, Alexandre Pock écrit ainsi au sujet de James Nelly. James Nelly, le 4e jour, a eu une grande dispute avec quelques-uns des principaux des congrégations séparées, et comme c'était public, il y eut une grande assemblée, c'était dans l'une de leurs propres maisons de réunion. Et en vérité ce fut fort pour l'avancement de la vérité, car bien qu'ils fussent mon nom intelligible, ils en furent grandement confondus. James est très utile ici, et sa renommée commence à se répandre dans la ville, puisqu'il a eu des disputes publiques avec beaucoup. C'était un peu plus d'un an avant la chute de James Nelly, et il ressort du journal de George Fox que c'est vers la fin de cette année-là que George Fox éprouva une crainte à son sujet. Le lecteur remarquera probablement, dans l'extrait ci-dessus, matière à réflexion quant à la carrière ultérieure de James Nelly. Lettres historiques suite.